Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique. Numérique.
Studio 404, présenté par l'AM UA.
Bonjour à tous, c'est Studio 404. Nous sommes ravis de nous réunir et de parler tous ensemble pour vous, chers auditeurs. Nous sommes au tank, tranquillement, au chaud. Et pour cette émission d'octobre, il y aura peut-être un petit problème de balance des voix. Les gens, vous allez voir, ils vont parler un peu loin parce que notre réalisateur Ghislain nous a apporté des plateaux de fromage ce soir, juste avant l'émission. On s'est régalé, puis maintenant on a du mal à se parler les uns face aux autres. Donc bon, on va quand même tenir, hein. Daz s'est bien endormi sur le bleu d'Auvergne. Il a bien défoncé le bleu d'Auvergne. Comment
il
ça va,
pas
Daz?
Mal. Ça va très très bien. Le truc à la truffe était aussi délicieux, hein.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Mes respects, Ghislain. Mes respects, Angie. C'était très très bon.
Et d'ailleurs, la tome à la truffe, je la donne à Sylvain, hein, qui l'a fini en arrivant. Comment ça va, Sylvain?
Eh ben, écoute, ça va très très bien. Je suis comme ce fromage. Je suis un petit peu plein de trous et dévoré de l'intérieur.
Ok.
Tout voir de métaphore.
À côté de toi, elle est pétillante comme un pecorino au piment, hein.
J'aime cette métaphore gastronomique.
Ça va bien, Mélissa?
Ça va très bien. J'ai bu un verre de Sauterne déjà.
Aussi, avec de l'alcool. On est bien.
On est bien.
Et à côté de toi, par contre, il est tout mou ce soir. Il pourra pas taper sur la table. C'est notre camembert coulant de ce mois-ci, hein. Il est tout fatigué parce qu'il rentre d'un salon et puis il repart à un autre salon demain. C'est Fibre.
Bonsoir, c'est Fibre Tigre. Je reviens des intergalactiques de Lyon où on a parlé voyage dans le temps.
Ah oui.
Voilà. Et demain, c'est les EIGD, c'est les European Indie Game Devs. Donc, un salon à Montreuil où vous êtes invité à aller, où on parle des jeux vidéo indépendants.
Donc voilà, Fibre qui est fatigué mais qui n'a toujours pas
promo,
voilà,
même.
Qui continue à faire sa promo parce que
comme les invités voilà. Sur les plateaux télé.
Quoi. Deux secondes avant la mort, je ferai la pub sur voilà.
Allez, on démarre avec une FAQ bien odorante.
FAQ.
Pour cette première FAQ, c'est notre chère auditrice Alexis Gru qui est forte quand même. Hein. Je pense qu'elle le fait à chaque numéro, elle apparaît dans les questions.
Ouais.
Je pense qu'elle
a des bonnes questions.
Je pense qu'elle va décrocher un petit achievement.
Petite oui, anecdote, elle va sortir un podcast qui s'appelle L'Ingruste.
L'Ingruste.
Voilà.
Bah, elle a déjà bien,
parce qu'elle est lyonnaise et on voilà.
Elle a déjà bien bossé sur le truc.
Elle s'était bien ingrustée dans 404. Bon, elle a posé la question un peu inévitable, mais il faut l'évacuer un moment. C'est un peu d'actualité cette semaine. Alors, quel titre pour une chronique en 1985? Parce que vous savez quoi, si vous n'étiez pas au courant, et ben imaginez-vous que cette année on fête les 30 ans de Indiana Jones. Bon, alors voilà. Donc, retour vers le futur, 21 octobre 1915, la maladie de Parkinson, tout ça, des trucs super réjouissants qu'on a vu à la télé et sur Internet non-stop. Imaginons que vous êtes en 1985 et qu'on enregistre sur une cassette audio Studio 404 et qu'on a que 90 minutes parce qu'après faut changer de face, faut se dépêcher. Il y a une chronique à faire sur votre époque.
On n'était pas nés avec Sylvain.
Voilà. Oh là là, la déprime.
Bien joué. Just so you know. Alors,
ah ben oui, c'est vrai.
La déprime. Bon, bah voilà. Alors, Fibre, comme d'habitude, qui même en 84 était un faillot et le premier à répondre.
Bah, j'ai,
Fibre, quelle serait ta chronique en 85, en 85, pardon.
J'étais déjà vieux. J'avais déjà du hardware. Et je me souviens que j'avais un PC 1512 noir et blanc sans disque dur. Donc j'aurais fait peut-être une chronique qui est le disque dur, le truc qui n'a aucun avenir. Parce que j'avais déjà avec 8 disquettes, tu vois, 5 un quart, et j'aimais bien les changer, c'était bien, donc j'aurais expliqué que c'était sympa.
Voilà, le disque dur, je n'y crois pas, une belle vision de Fibre. Pour ceux qui étaient nés ou pas nés,
ouais,
Sylvain.
Je sais pas si je me situe bien dans la bonne époque, mais ce serait un truc du genre comment le Minitel va changer nos vies.
Oui, 85, on était bien dedans, on y croyait encore, hein.
Ouais, j'aurais fait une chronique dithyrambique comme sur la réalité virtuelle. En disant c'est le futur, de toute façon, taisez-vous, j'ai raison.
Donc comme Fibre, hein, des paris d'avenir, des paris safe.
Voilà,
des paris safe. Base?
85, je voulais parler de Tchernobyl, mais je crois que c'était 86.
86, ouais. Ouais.
85, j'avais 7 ans. Je dirais, pour rester dans le patrimoine français, je dirais le Rafale, meilleur avion du monde. Projet du futur.
Vous aimez vous tromper en fait, c'est ça votre
chronique. C'est un très bon avion le Rafale.
Oui.
Juste un peu cher.
Oui, un peu en retard aussi.
Oui, il sert un peu à rien. Oui, maintenant.
Il te va bien quand même. Il te va bien. Mélissa.
Je sais pas, un truc sur le renouvellement de la radio.
Le renouvellement de la radio,
ouais. Sur les nouveaux formats sur la radio, tu vois.
Qui va, ça va tout révolutionner.
Ouais.
Quoi.
Ouais, c'est magnifique.
Bah, dites donc, on est, là, on a fait un vrai retour, mais oh. Du coup, vers le passé, quoi.
Phare jaune, phare blanc, info ou un tox.
C'est du beau. Allez, on attaque le premier sujet tout de suite avec Sylvain. Et ce soir, petit bonus, Angie est présente parmi nous, parce qu'elle nous a aussi apporté du fromage. Je ne sais pas ce qu'Angie a mangé. Mais avec son haleine douce, elle va nous déclamer les titres des chroniques en live et elle adore ça. Elle est très contente de le faire. Allez, NG, c'est parti. Premier sujet avec Sylvain.
Sujet numéro 1.
J'ai visité LinkedIn.
On la garde, hein, celle-là.
On la garde, c'est bon.
LinkedIn. Allez, voilà.
Sujet numéro 1.
J'ai visité LinkedIn, la COGIP des réseaux sociaux.
Alors, Sylvain.
Oui, effectivement, j'ai fait un petit peu d'exploration.
Ah oui.
Je vous cadre l'ambiance. Dimanche soir, minuit, je suis seul dans mon appartement. L'unique source de lumière est l'écran de mon HP Spectre X360. Il est en mode tente et éclaire mon visage d'une lumière blanche.
Tu sais que tu vas prendre pour longtemps, Fibre, avec cette histoire.
La page que je consulte défile au rythme de mon doigt, car le HP Spectre X360 est tactile. Quand soudain, je stoppe mon geste net. À l'écran, une image attire mon regard. Steve Jobs de profil, son col roulé se confondant dans le noir comme la nuit, et à côté de son visage, cette citation. On ne fera jamais une bonne publicité en mettant en avant des caractéristiques techniques, des gigaoctets de RAM, des tableaux ou des comparatifs. Il faut transmettre une émotion. Fin de citation. Je me sens inspiré. En commentaire de ce poste, Mélanie interpelle l'auteur de l'image. Un conseil avisé que vous m'avez transmis, Michael. 3 points de suspension. Théâtralisons nos offres. 3 points d'exclamation. J'espère que tout va bien pour vous. Je regarde autour de moi, j'essaye de reconnaître mon environnement. J'arpente un réseau social où les membres se vouvoient et partagent des citations de businessmen. Je suis à l'intérieur d'une communauté dont les utilisateurs ont une moyenne d'âge assez élevée. Je suis sur LinkedIn.
LinkedIn.
Le réseau
c'est social. C'est le chien à la BU des réseaux sociaux, en fait. Personne ne sait comment le prononcer.
Le réseau social professionnel sur lequel on ajoute son CV et où on devient, pas ami avec des gens, mais on crée des relations. Sylvain a 3 nouvelles relations. Découvrez ces 3 nouvelles relations. Attention, fermez les yeux. J'aimerais que vous imaginiez quelque chose. Une image au format paysage. Fond noir. Sur la partie droite, fibre tigre. De face, en noir et blanc, avec les contrastes poussés à bloc. Il fronce les sourcils et regarde droit devant lui. Sa main pince son menton. Il évoque la puissance et la stabilité. Sur la partie gauche, une phrase entre guillemets. Ghislain, je veux bien un petit peu de réverb dans le micro de Fibre. Et Fibre, s'il te plaît, je veux bien que tu lises la phrase qui est sur l'image. D'une voix solennelle.
Sur les réseaux sociaux, vous construisez votre identité par le contenu. Celui qui ne tweet pas n'existe pas. Dis-moi ce que tu partages et je te dirai qui tu es. Je suis d'accord, mais
c'est pas grave, je te prends des mots qui ne t'appartiennent pas. C'est Internet, ça fonctionne comme ça. Oh là là, cette divine inspiration me pousse à tenter de découvrir qui sont ces gens sur LinkedIn, ce qu'ils partagent et pourquoi. Ceci est donc leur histoire. J'ai le sentiment de marcher le long d'un couloir en moquette jaunie, ambiance Cogip. Les murs sont bardés de portes fermées et elles ouvrent toutes sur des bureaux individuels. Je ne pousse pas ces portes, car la personne qui est à l'intérieur le saura immédiatement. Et oui, de tout temps, les internautes ont rêvé de cela sur MySpace, puis sur Facebook. LinkedIn l'a fait. Découvre qui a visité ton profil.
Ah, c'est vrai que c'est le fantasme
ça,
de tout le monde.
Ça, c'est incroyable. Ce site le fait. Il y a 2 sites dans le paysage internet qui font ça. C'est Adopte un mec et LinkedIn.
Viadeo.
Et Viadeo. Ah oui, mais Viadeo n'existe pas.
Ok.
C'est ça que tu sais pas, c'est un complot. Et là, je me dis, en fait, ça doit grave pécho ici. Non, grosse erreur. Je continue d'avancer. Mes relations semblent toutes s'exprimer avec des pincettes, ne prennent pas de risques, pas de position franche, pas d'opinion marquée. Comme quand il y a ton boss en réunion, en fait. Tu sais qu'il faut dire quelque chose, qu'il faut dire un truc, n'importe quoi pour qu'il te remarque, mais en même temps, pas une connerie. Donc tu balances un truc hyper précautionneux, genre, c'est juste mon avis subjectif, mais... Ou encore le fameux, bon, je réfléchis à voix haute là, donc je vais peut-être dire des conneries. Comme Ibrahim Yves, une de mes relations. Prénom pas du tout fictif. Réel.
Ibrahim
Yves, qui partage le poste d'un confrère. Successful people want others to succeed. Unsuccessful people want others to fail.
Oh, premier degré. Hein.
Superbe. En ajoutant, hein, je pense que c'est assez juste. Et pose tes couilles sur la table, Ibrahim Yves. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Putain. C'est donc ça, LinkedIn, je me dis. Une copie virtuelle du monde du travail, un petit peu old school, une simple transformation numérique des relations entre les employés d'une COGIP. En fait, LinkedIn, c'est The Office, des motivational posters, des situations gênantes entre collègues et du partage d'articles de cadres magazines. On est bien loin de l'esprit start-up. Mais se balader sur LinkedIn, c'est aussi rendre visite à ses parents. LinkedIn est le réseau social qui a la moyenne d'âge la plus élevée d'Internet.
Ouais, juste avant.
44,2 ans.
Ah, carrément quand même.
Et ouais, c'est vieux. Et c'est peut-être le plus drôle en fait, mais aussi le plus touchant. Drôle parce que les chaînes de mails et les PowerPoint à visée humoristique que nous envoyaient nos parents se retrouve maintenant sur votre wall. 90% de la population ne sait pas résoudre ce problème, 3 points d'exclamation. Et Jean-Pierre en commentaire qui va interpeller Maëva parce que plus haut elle s'est vantée de l'avoir fini en 5 minutes. Maëva, vous m'impressionnez! Cela me rappelle la formation que nous... Oups, la touche entrée est partie trop vite, le message est posté. Le problème, c'est que Jean-Pierre ne sait pas éditer un commentaire. Drôle donc, et aussi touchant, parce qu'on a parfois l'impression de se retrouver sur un copain d'avant qui aurait marché. LinkedIn, c'est un oasis d'amour dans un internet depuis longtemps gangréné par la moquerie, le second degré et l'indignement dont on parlait à la dernière émission. Il y règne une naïveté et une méconnaissance totale de la culture web. LinkedIn, c'est peut-être le seul endroit d'internet où les gens sont exactement pareils que dans la vraie vie.
Faux cul.
J'ai cru que Daz allait dire c'est-à-dire des Mongoliens.
Non.
Pas du tout. C'est l'internet de papa et maman. C'est l'internet du respect, de la hiérarchie et de la cross-fertilisation des silos. C'est finalement le réseau social le moins riche culturellement. Finalement, je sors mitigé de cette exploration parce que ça me désole de voir que cette vision du travail, elle existe encore, que la maîtrise des outils numériques, de sa culture et de ses codes, c'est des choses qui sont encore loin d'être acquises par la population lambda. Mais je me dis également que les gens ayant une approche plus moderne du monde du travail ne sont pas sur LinkedIn, ils sont sur les réseaux sociaux personnels comme Facebook ou Twitter comme Fibre, et c'est là qu'ils font du business en fait. Donc le jour où tout le monde sera moderne, alors je pense que LinkedIn disparaîtra purement et simplement, car il sera devenu inutile.
Ah,
cette
oui.
Chronique fait 7 minutes.
Merci Ranu. Merci mon petit Jean-Claude Ranu, c'est une très bonne présentation. On va commencer la réunion parce qu'on est en mode LinkedIn.
LinkedIn. Donc Berthier de la compta, si tu peux nous rappeler les comptes exécutifs, où on en est.
Alors c'est vrai que LinkedIn existe depuis longtemps. LinkedIn est une force sûre des internets. Ça existe, c'est très respecté, c'est très utilisé, et c'est en même temps très discret d'une certaine manière dans les discussions, dans la visibilité médiatique, etc. On n'en parle pas beaucoup, mais tout le monde a un compte. Enfin, beaucoup de gens actifs ont un compte. Et comme tu dis, c'est quelque chose qui est très très professionnel. Donc on est là aussi pour se montrer, on est là pour, mais pas pour se montrer de manière sociale. On est là pour se montrer, et dire qu'on existe professionnellement, pour faire des petites vannes de bureau. Il y a un petit côté machine à café. Et du coup, c'est à moitié déprimant. C'est quand même, comme tu disais, Sylvain, c'est un peu touchant finalement. C'est une sorte de petite oasis et de petit endroit un peu protégé de la méchanceté du net.
Ouais, protégé de la méchanceté du net et aussi protégé aussi du sérieux du travail, comme tu dis. Hein, ils peuvent se permettre de faire des petites blagues, ils font des chaînes de mails, des trucs comme ça. Enfin,
mais,
des chaînes.
Mais c'est blague de bureau.
Mais blague de bureau.
Mais c'est
blague
faux.
Pas très drôle.
C'est alors, totalement
alors,
faux.
Daz, ta réaction nous intéresse parce que Daz, tu es la personne qui
arrêtez avec ça.
La caution que j'y
qui évolue.
La caution que
j'y... Bah si, tu sais, Sylvain, on l'emmerde avec ça. C'est la caution génération Y. Donc forcément, t'es la caution que j'y. Donc Daz, tu travailles dans un grand bureau à la Défense, t'as une plus un, des chemises à manches courtes. Est-ce qu'il y a des stylos bics dans les pochettes de chemise ou pas?
Non, il y a pas de poche. Par contre, les mecs ont leurs initiales sous les tétons, ça me... Ah,
est-ce que les salles de réunion ont des thématiques genre les montagnes de France, genre on se fait une réunion dans les Vosges ou une réunion
ça,
en Jura?
Ça c'est dans les salles de convention dans les hôtels, mais
d'accord. Mais t'es quand même dans un environnement qui ressemble pas trop à une start-up.
Oui, c'est pas, enfin encore une fois, comme on le disait le mois dernier. Moi, je suis dans une équipe au sein de l'IT qui est toute petite et qui donc est plutôt agile. Mais oui, je vois un peu le tableau qu'essaie de peindre Sylvain.
Est-ce que t'es sur LinkedIn?
Oui, depuis pas longtemps. LinkedIn. Moi, je me suis ouvert un compte en septembre, je crois.
Ah, donc c'est récent.
Ouais. C'est super récent en fait, parce que j'en avais un sur Viadeo. Mais non, en fait, la vision que, enfin, bon, Sylvain fait de l'angélisme avec les grosses machines.
Est-ce que tu peux dire ce que t'as mis en hobby sur ton compte LinkedIn?
Non, c'est pas en hobby, c'est en œuvre de bénévolat.
Parce que j'ai un peu le même et je trouve ça très drôle.
Oui, j'ai mis que j'étais pourfendeur d'ineptie sur Facebook. C'est un travail que je fais bénévolement.
Oui, mais alors, tu as aussi un compte second degré sur LinkedIn.
Voilà, Slayer of Nonsense.
Tu as un compte second degré sur LinkedIn.
J'ai un compte premier degré parce que c'est mon vrai CV qu'il y a dessus avec ma occupation, sauf que je fais du bénévolat sur Facebook, je le dis, parce que moi je suis full disclosure, il n'y a pas de.
Et est-ce que tu joues le jeu sur LinkedIn, donc qui est quand même donc un réseau social?
Absolument pas.
Professionnel, entre professionnels et de gens qui parlent de choses professionnelles?
Absolument pas, parce que en fait je pense qu'il y a un truc qu'on a peut-être oublié, c'est que les profils dont se moque Sylvain, pour moi c'est des gens qui gravitent dans ces cercles en fait. C'est-à-dire que moi je suis côté IT, côté transport intergalactique, personne ne poste en fait, on s'en bat les couilles.
D'accord.
Voilà, je pense que les mecs qui voient avec des posts Maëva, amenez-moi le rapport Berthier machin truc là, c'est en fait des gens qui sont dans la com, ce qui est encore plus flippant. Mais passons. Moi, ce que je voulais dire sur le truc, c'était juste le tableau que peint Sylvain, qui est donc teinté d'angélisme, hein, un peu comme il fait avec Google. Alors on sait tous que Google c'est l'empire galactique. Je pense qu'il a oublié de préciser que LinkedIn, à ma connaissance, donc déjà effectivement le coup de qui a visité ton profil. C'est quand même pas un lapin de 6 jours qui peut prendre l'idée de faire ce truc-là. Pour moi, c'est des mecs qui ont quand même une vue assez poussée du truc. Et puis surtout, la façon que LinkedIn a de te lier avec tes contacts en te faisant croire que des mecs t'ont écrit ou qu'ils attendent que tu t'inscrives alors que personne t'a jamais demandé, parce qu'en fait ils synchronisent ton carnet d'adresses et ils spamment tout le monde avec des pseudo-invites que t'as jamais
envoyé.
Ah c'est
sale, c'est un peu sale.
C'est complètement dégueulasse. Et pour moi, pour arriver à ce niveau-là de fils de puterie, je pense que franchement le site il est pas aussi con qu'on veut bien.
Ah non, il est pas con.
Je parle pas du site, je parle des.
Non mais enfin tu vois,
je dis même pas que les gens sont cons, mais je parle des gens qui sont sur.
Il y a des mécaniques qui montrent quand même que à côté de l'image un petit peu d'Épinal. De oh là là, nos parents sont dessus et puis ils refont les réunions du mercredi matin.
Ce sont des petits malins.
C'est quand même des beaux enculés. Ouais.
Pas des petits malins, des beaux enculés.
Des beaux enculés, ça veut dire pareil.
Dans ton langage. Mais Lisa, est-ce que tu utilises ou est-ce que tu as utilisé LinkedIn et est-ce que quand tu es, enfin tu étais dessus, tu as vécu un peu cette ambiance un peu corporate rigolote, donc réseau social mais un peu en costard quand même.
Alors nous autres journalistes étant dans un milieu contraint actuellement. On sait qu'on trouvera jamais du boulot grâce à LinkedIn. Mais on a tous un profil, ce qui me permet de faire mon activité préférée, à savoir stalker.
Ah, mais du coup, on peut vraiment savoir.
Et en fait, LinkedIn, c'est vraiment le seul endroit où les gens mettent genre leur vrai nom et leur vrai, enfin, une vraie photo. Oui. Donc souvent, le truc qui remonte quand quelqu'un est vraiment caché sur Internet, c'est LinkedIn.
Et comment tu fais pour pas te faire griller?
Mais là, tu te fais griller, du coup, mais il faut que ce soit assumé.
Pour que les gens n'aient pas vu,
Mais c'est vrai que j'ai jamais vu une seule profile pic avec une tête de chat ou un truc genre gay parce que c'était une loi qui était passée ou un truc genre noir parce que
c'est
très sérieux.
Il y a des postures profil pic sur LinkedIn assez intéressantes. T'as celle que j'ai fait avec Fibotic, c'est-à-dire le pouce et l'index qui pincent le menton en regardant au loin. Et t'as aussi le micro oreillette, tu sais.
Oui, pour dire
j'ai fait une conf, ouais. Si, il est très bien. Il est répandu.
Fibre, est-ce que tu es sur LinkedIn?
Alors, avant d'avoir le sujet, j'ai une petite anecdote amusante.
Ouais.
C'est l'autre jour, je reçois un mail donc de LinkedIn qui dit féliciter.
Toi, tu dis comment?
LinkedIn.
LinkedIn.
Ouais. Bon, féliciter Mathias pour son nouveau poste, tu vois. Alors, je savais que c'était, mais j'ai cliqué. Et le mec, il a mis chômeur, tu vois.
C'est affreux.
T'es tellement triste, mais bon, bref. Tu vois, la magie de l'automatisme. Mais bon.
L'algorithme n'a aucun cœur, aucune émotion.
Et voilà, c'est ça.
Fibre non plus, d'ailleurs.
J'ai un profil.
Parce qu'il a liké.
Non, il a félicité le mec pour son passage au chômage.
Non, je l'ai pas félicité, j'ai juste cliqué. Le mec, il a mis chômeur, mais bon, peu importe. Donc, moi, j'ai un profil qui pourrait être second degré.
Ouais.
Qui est fait pour se singulariser. Donc, où il y a pas ma photo, il y a mon logo habituel. Et l'intitulé du CV, c'est Digital Rockstar, .yeah! Et dans lequel je mets des gifs de Tyrion qui danse et des dollars qui pleuvent.
Donc,
et je mets.
Donc, second degré.
Non, je mets, si vous travaillez avec moi, vous allez gagner une tonne de fric et tout. Et ce qui est vrai. Donc, ce qui est vrai. Et alors, Et alors, très amusant, dans qualité, j'ai mis Never gonna give you up, never gonna let you down. Les gens, tous les jours, hein, j'ai plus 100 sur Never et les gens, ils s'amusent, voilà. Donc, c'est un peu la bonne ambiance. Cela étant, deux choses. Premièrement, des gens me contactent très sérieusement dessus, en disant, voilà, je vous envoie mon CV, je suis graphiste, j'aimerais être dans les jeux vidéo, donc, ça marche.
Ça marche.
Et, précisons quelque chose, c'est vrai que Facebook est meilleur en termes de networking, c'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un, vous échangez une carte de visite et on s'ajoute sur Facebook. Un peu moins sur Twitter, ça dépend. C'est-à-dire que, Twitter c'est plus américain, Facebook c'est très français.
D'accord.
Mais quand vous êtes en dehors de Twitter et de Facebook, et je pense notamment de l'Europe et de l'Amérique, je pense notamment à la Russie parce que la Russie, ils sont pas sur Facebook, ils sont sur un truc qui s'appelle VKontakte,
ouais.
Qui est en russe, donc c'est mort si vous voulez y être. Et bien LinkedIn, les Russes passent par LinkedIn pour vous ajouter professionnellement. Voilà.
Ouais, parce que VKontakte c'est pour pécho, je crois.
Oui.
Comme ça, je sais pas.
C'est pour pécho des escortes d'ailleurs.
C'est écrit en russe, donc.
C'est pour pécho des escortes.
Donc c'est pas inutile et s'il a fait son petit bonhomme de chemin. C'est que ça marche et il y a cet aspect effectivement quand même prise de risque, c'est-à-dire qu'on peut pas vraiment stalker sur LinkedIn, contrairement à ce que dit Mélissa, parce que le stalker est pris dans le vif, on va dire. Voilà,
il y a pas de secret, on peut pas stalker discrètement.
Mais attendez, si vous êtes pas connecté, personne sait que c'est vous.
Ouais, mais tu vois pas la photo.
On peut pas justement, on peut pas.
Si.
Non.
Ça dépend.
Non,
il y a beaucoup de profils en fait qui sont fermés et on t'invite toujours à te connecter pour voir.
Ouais, tu l'as pas sur Google et enfin, il y a pas sur la page et ouais.
Mais d'ailleurs, c'est pas ça où quand t'arrives, tu vois le profil pendant 4 secondes et d'un coup ça disparaît. Donc en fait, t'as 4 secondes pour voir le
c'est suffisant vu qu'il y a quelqu'un.
Ah, c'était vidéo.
Mais pas plus tard que cette semaine, Sylvain nous parlait de quelqu'un. On a tous tapé son nom dans Google. Et cette personne, elle avait un compte LinkedIn. Cette personne a su qu'on était en train de la stalker en masse.
Oui, elle a vu toute l'équipe de 404 qui a visité le profil en rafale.
Donc, on salue d'ailleurs.
Voilà. C'est horrible.
Et sur ce côté un peu humour de de machine à café. Effectivement, étant sur LinkedIn depuis peu de temps, parce que je suis dans une boîte où effectivement tous mes collègues y sont aussi, et on s'envoie des points de réputation les uns les autres. Enfin, on se connecte. Et puis dès que le boss il écrit un article, tout le monde le like et le partage, etc.
C'est
très corporel finalement. Non, mais c'est vrai. Est-ce que du coup sur ce genre de réseau, vous trouvez ça comme dit Sylvain, c'est une forme de sincérité? Ou est-ce que en fait ça réplique une conduite au travail qui est aussi une forme d'hypocrisie?
C'est pas du tout de la sincérité, au contraire. Ouais.
Sylvain disait en fait les gens se comportent un peu comme en vrai. Mais
oui, mais en vrai t'es hypocrite au travail.
Ah enfin, voilà.
Donc, bah oui, d'accord. Évidemment, voilà, ouais. Évidemment. C'est une conduite qu'on encourage. Et là-dessus, enfin tu vois, il y a un côté américanisation de l'entreprise, du monde de l'entreprise. Moi, je trouve ça désolant en fait. Mais ce côté en fait où tu as tout le monde qui se connaissent pas mais doivent être potes tout de suite et se faire des hugs et tu vois traîner ensemble après le travail, etc. Et moi c'est un truc que je fuis comme la peste. Les gens me le reprochent, tu vois, à la Cogip, on me dit mais attends, on ne voit jamais. Je dis mais les gars, je vous vois tous les jours.
Mais je suis pas pote,
envie de passer les soirs avec vous. Voilà, et c'est quelque chose où là au départ dans ma boîte qui est quand même bien française, c'était un peu la norme ce comportement-là, c'est-à-dire que tu traînes pas avec tes potes de bureau.
Ouais.
Et là maintenant, j'ai de plus en plus l'impression d'être en marge du truc, quoi.
D'accord.
Vraiment. Et ça pour moi, c'est un truc qui vient directement des États-Unis, tu vois, le côté.
Est-ce que du coup sur LinkedIn, si tu as des connaissances ou des collègues qui postent des choses, tu te sens obligé de liker ou de partager?
Ah bah du coup, je suis allé sur la page de la Cogip sur LinkedIn et puis j'ai vu effectivement. Est-ce tous que les mecs que moi je catalogue comme gros suceurs déjà au travail, ouais. Ils étaient présents, tu vois, et ils likaient les pages et ah oui, très fort, machin, etc. Et effectivement, c'est plutôt des gens qui sont dans le département com de ma boîte. Donc est-ce que les hypocrites sont dans la pub ou dans la com? Ben je pense que oui, en fait. C'est un secret pour personne.
Ils sont voués naturellement à communiquer.
Et tout ce petit côté, effectivement, ouais, tout à fait, Christelle. Vraiment, c'est intéressant. Et effectivement, comme tu disais, genre, c'est important de donner de la granularité à nos offres. Sylvain, est-ce qu'il y a ce côté aussi un petit peu, c'est un réseau social, mine de rien, LinkedIn. Est-ce qu'on doit quand même se vendre, mais en utilisant des codes corporate? Mais il y a quand même, comme sur Twitter ou sur Facebook, on crée des interactions, on réagit, on essaie de créer des débats, mais avec tout le langage 100% pro qui va avec.
Ouais, il y a un côté personal branding qui est très fort, beaucoup de mise en avant de ce que les gens font, mais en mode, comme entreprise, quoi, en mode humble brag.
Ouais.
C'est-à-dire, mon livre a été publié, il est imprimé, il a été publié, c'était une aventure extraordinaire, je tiens à remercier tous les gens qui ont participé, tu vois, c'est ce genre de choses. Les gens se la pètent, mais en incluant les autres, en disant que de toute façon le travail c'est le travail de tout le monde et tout.
Tu te trompes là, ou tu publies des actualités sur LinkedIn?
Je ne publie pas d'actualités du tout sur LinkedIn. J'essaie de partager celle de mon boss.
Ah d'accord, voilà, c'est pour ça.
Alors vas-y, c'est quoi la raison justement pour que tu fasses ça? Est-ce que c'est
parce que pour être tout à fait honnête, dans notre boîte, on est une petite start-up française. On est sur un secteur qui est très spécialisé, qui est donc l'e-sport. Et on s'est rendu compte que sur LinkedIn, il y a un gros suivi professionnel de gens qui font de la veille, qui regardent, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que prendre la parole dessus, et ben sur LinkedIn, c'est très premier degré, donc les gens disent ah bah ça c'est un influenceur ou c'est un mec qui s'y connaît, on va lui mettre des points en e-sport en machin. Et donc mon patron régulièrement qui n'est pas du tout branché réseaux sociaux, il s'est investi sur LinkedIn. D'un point de vue professionnel, je comprends. Et du coup moi j'utilise LinkedIn pas comme vous Fibre et Daz, mais de manière très premier degré, en mode corporate à mort, vive ma boîte et on partage quoi. Mais du coup c'est marrant parce que c'est un endroit qui une expérience qui est très différente de Facebook ou Twitter.
Et ce qui est assez intéressant, c'est il me semble que les gens sur LinkedIn elles vont sur le site et interagissent sur le site pendant les heures de bureau.
Oui, d'ailleurs, c'est le seul où c'est plus ou moins autorisé.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est un peu un moyen de glander, mais de faire du réseau social, mais légalement dans l'entreprise.
Est-ce que vous arrivez à glander sur LinkedIn? Parce que justement, il n'y a pas de chatons, il n'y a pas de vidéos, il n'y a pas de vidéos gore ou de, non, je sais pas, de gens qui se battent.
Et finalement, t'as pas tant que ça de contenu, en fait. T'as beaucoup de, on va dire, de mise à jour passive, de machin à rajouter telle ligne à son CV. Machin aimait tel commentaire de quelqu'un, etc.
Il y a personne qui va poster un truc qui va provoquer la discussion.
Si, il y a un truc qui fait un peu rêver, qui n'y a pas dans Facebook, c'est ajouter des gens qui pourraient être dans votre network. Et donc là, t'as un catalogue de personnes complètement improbables, enfin, en ce qui me concerne, du journaliste au boss de Rockstar,
avec les fameux degrés de séparation.
Voilà, c'est ça. Bien, et voilà. Tu te dis, tiens, j'aimerais bien être pote avec lui, il est à Los Angeles, c'est cool, tu vois, ça fait un peu rêver. Enfin, on n'a pas ça dans Facebook, en tout cas. Voilà.
Le réseau social qui fait rêver.
Mais je pense qu'il est sous-exploité, LinkedIn, par les gens.
C'est-à-dire,
il est sous-exploité, c'est-à-dire que tu voudrais le hacker, le détourner comme les gens se sont appropriés des réseaux sociaux, ou tu penses qu'il est sous-exploité?
Putain, ça serait l'enfer.
Mais non, mais parce que c'est ringard, ça a une image corpo.
Et d'ailleurs, je vous pose la question.
Alors qu'en fait, c'est hyper efficace.
Mais c'est hyper efficace, mais du coup, pourquoi personne, que ce soit Fortune ou des gens, n'ont jamais essayé de s'approprier justement, j'ai l'impression que Internet aime bien s'approprier les choses spécialement rigides et de se dire, ah bah, on va tous débarquer sur LinkedIn en force et on va en faire ce qu'on veut. Un peu comme toi, Das, tu fais en faisant une bio un peu spéciale ou toi, Fibre. Est-ce que, pourquoi on s'est pas retrouvé très rapidement sur LinkedIn avec des gens, un, qui se draguaient, deux, qui trollaient les autres avec des commentaires faussement, un peu message à caractère formatif? Pourquoi c'est...
Pourquoi il n'y a pas de porno?
Eh ben, parce que les gens se connaissent. Parce que là, pour le coup, c'est un peu comme Facebook, tu vois, il n'y a pas d'anonymat. Donc là, c'est vraiment des gens qui se connaissent pour de vrai dans la vie de tous les jours, je dirais.
T'as ton patron, quoi.
Donc, t'as ton boss, t'as tes collègues, quoi.
Pour vous, mais ça, c'est une sorte d'équilibre de la terreur qui fait qu'on peut pas déconner.
Bah, évidemment, ouais.
J'ai une autre explication. Je pense que LinkedIn, malgré lui, agit de la meilleure façon possible avec les trolls. C'est-à-dire qu'il les prend hyper au sérieux. Et c'est-à-dire que moi, quand je viens et je fais un CV troll, ils disent, ben, bravo monsieur, asseyez-vous, on va vous traiter comme les autres, et voulez-vous être ami avec le PDG d'Ubisoft? Oui, parce que j'ai vu que vous aimiez les jeux vidéo.
Ah, en fait, ils désamorcent complètement la tentative
de troll. Et donc, t'es là, tu voulais troller, et ben, du coup, tu te mets à faire du business, tu te dis, ah bah, c'est vachement utile, voilà. Donc, voilà.
Bon, on en revient, en fait, LinkedIn, ça marche, finalement.
Bah ouais, ça marche.
Bon, c'est un peu triste.
On n'est pas habitué.
On peut rien dynamiter.
On peut pas rigoler, c'est pas drôle.
Bon, on essaiera de se mettre des points en expert de fromage demain,
si,
tous les uns les autres.
Oh, non, mais là, si, tu pourrais c'est... tout dynamiter, justement, en faisant ton, quand tu quittes ta boîte, tu peux essayer de te suicider, tu vois.
Un peu comme au revoir président, au revoir. C'est voilà, tu fais une photo de toi en slip et tu.
Tu vas partir sur un truc flamboyant, quoi. Mais après, t'aurais trop peur de.
Les pétages de plomb sur LinkedIn, on n'a jamais vu ça, effectivement.
Oui, mais personne les voit parce qu'on n'y est pas, quoi. Moi, je suis pas connecté sur LinkedIn tous les jours, quoi.
En étant un peu connecté, j'ai jamais vu de débordement.
Non, mais c'est vrai que. Dans les médias, tu vois, il y a jamais eu de.
Non, mais il faudrait que tu fasses ça.
Ce mec sur LinkedIn va vous étonner, on n'a jamais eu ça.
Non, mais il faudrait que tu fasses ça, mais c'est-à-dire que, bon, tu quittes ton taf et surtout t'en reprends un qui a absolument rien à voir. Donc tu recroiseras jamais le réseau d'influenceurs, oui, etc.
Tu seras plus de LinkedIn dans cette ville, quoi.
Pas dans le même domaine.
Donc pas de petites photos du petit island comme ça, balancé à 14h.
Et bon app! Bon appétit! On devrait créer la page Facebook, la page LinkedIn de Studio404 et foutre un peu la merde, je pense.
Ouais, je pense.
Ok, d'accord. Bah écoutez, on attend, chers auditeurs, des suggestions, hein. On va créer une page 404 et on espère que tous les auditeurs qui sont sur LinkedIn viendront nous mettre des points. Il faudrait qu'on ait des points de skills un peu débiles. Donc on aura un point Tome de Savoie, un point Pecorino et tout ça, puis on verra si vous mettrez des puces. Allez, on attaque la deuxième FAQ.
FAQ.
Alors, une FAQ posée par Venom Marv. Est-ce que ça a un rapport avec Marvel? Je sais pas.
Venom, c'est masque, ça.
Peut-être aussi. En tout cas, il s'appelle Tanuki972 sur Twitter. Et il nous demande, est-ce que vous pensez que l'on peut vivre une vie high-tech par abonnement, 100% par abonnement? Donc Spotify, location de smartphone, de service. Donc location de service, je pense, et location de
matos.
Alors, Daz.
Prends la parole, je pense que oui.
Tu peux tout faire par abonnement. C'est le fameux l'économie de l'accès opposé à l'économie de la propriété.
Ouais, je pense que là, en tout cas, 2015, ça commence sérieusement à pointer le bout de son nez là avec le cloud gaming, etc. On a vu par exemple pour le dernier keynote d'Apple qu'ils proposaient une offre d'abonnement réservée aux États-Unis pour l'instant, mais où tu payes $32 par mois pour avoir un iPhone tous les ans.
Ouais.
Spotify pour la musique, Netflix pour la vidéo, et donc le cloud gaming. Je pense que, sincèrement, quoi, à un moment donné, tu peux vivre qu'avec de l'abonnement, quoi, sans rien acheter.
Très bien. Sylvain, est-ce que tu pourrais vivre à 100% en abonnement et en leasing, ou est-ce qu'il y a des choses que tu as besoin de posséder, que ce soit des MP3 ou un smartphone?
Je suis trop amoureux des objets pour les louer.
D'accord. En fait. Donc les objets, t'es obligé de les acheter.
Ouais.
Et les services?
Les services.
Est-ce que tu préfères mettre de l'argent pour acheter des Blu-ray, ou est-ce que tu vas payer 10€ par mois pour un Netflix ou un Orange VOD?
C'est une très bonne question. Je pense que je continuerai à faire les deux. C'est-à-dire que je pourrais en même temps.
C'est quoi le dernier film que t'as acheté physiquement?
Voilà. Non mais physiquement. Non, physiquement.
On n'est pas sur LinkedIn.
Physiquement ou en VOD?
Ah, donc vois, en VOD
on
propriété,
on
d'accord.
On parle d'abonnement, là. Donc, acheter un film ou...
Alors, vas-y,
ou
en VOD. Non, mais en VOD, mais donc, qui reste à propriété.
Je regarde pas de film.
Voilà. Ok. C'est ce qu'il me semblait. Hypocrisie, mesdames et messieurs.
Trois petits points, légalement.
Non, mais j'ai déjà acheté de la musique sur Amazon, tu vois.
Ouais.
Parce que, ou sur Beatport.
Quand? Ouais.
Il y a 4 semaines. Il y a un mois.
Ok.
En 1985, Martin. Très bien. Donc, Sylvain, toi, entre les deux.
Entre les deux.
Ok.
Mais pour les objets, Agnès.
D'accord. Mélissa,
Je pourrais. Même si j'ai gardé tous mes iPhones morts et enterrés, ils sont toujours là.
Mais louer un smartphone ou un ordinateur.
Si ça me permet d'avoir un iPhone qui marche et qui est pas obsolète au bout d'un an, oui.
D'accord.
C'est ça l'important pour moi.
Et sur les services.
aussi. Enfin, je suis tout Spotify, VOD. Enfin, je.
Ouais, toi, tu t'abonnes à tous les sites de streaming.
Tout ce que je peux faire.
T'en es très contente.
Je suis très contente.
Très bien. Fibre.
Alors oui, si c'est forfaitaire, c'est-à-dire que si je paye une fois, y compris par exemple 100 €, et j'ai tout, c'est-à-dire j'ai YouTube qui va devenir peut-être
YouTube Red, mais
ouais, voilà,
on a un FAQ pour ça.
Mais ça me ferait chier de payer de louer mon iPhone, ensuite de louer ma 4G et ensuite de louer Spotify, parce qu'il est le cas aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Et demain louer ah bah
non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'à un moment on pouvait pas avoir le fameux abonnement global.
Voilà, le bouquet connecté, et t'as tout.
Et tout en premium. Et Twitter voilà, Gold, Facebook
voilà
Premium et tout.
Voilà une start-up à monter.
Patrick,
enfin, une start-up,
la négociation des droits.
Les négociations des droits.
Bonjour.
Bonne chance. Donc, on est d'accord.
Abonnements pour les gens, en fait.
Donc, tout le monde est plutôt d'accord pour avoir une vie par abonnement, au moins sur les services.
Mais c'est pas qu'on est d'accord, c'est qu'on y vient de toute façon, quoi.
Non, mais il y a peut-être des gens, moi, je sais qu'il y a des musiques, j'ai envie de les avoir en local, parce que elles existent pas sur certains sites de streaming, ou parce que j'ai peur des fois.
Oui, mais ces chansons que tu vas, parce que je déteste les gens qui parlent d'un titre en disant des musiques, ça m'énerve. Ces chansons que tu vas choper en local,
ce soir.
C'est des trucs que tu vas pas acheter. C'est des trucs que tu vas trouver sur Internet par terre, qui traînaient comme ça.
Non, j'ai téléchargé, comme Sylvain, j'ai téléchargé des albums sur Amazon et je suis content de les avoir en MP3. Mais bon, je peux comprendre les abonnements. Donc globalement, on peut dire qu'on est pour les abonnements?
Ouais, bah oui.
Allez, la vie par location. Allez, on attaque le deuxième sujet tout de suite avec Mélissa.
Sujet numéro 2.
La dictature des onglets de navigateur.
Ah, oh, elle était bien celui-là. MJ, franchement, elle était parfaite. MJ, elle dirait depuis un quart d'heure, elle a bossé son truc. La dictature. Il était très très beau. Alors, cette dictature des onglets de navigateur, on revient à Mélissa et son obsession de l'organisation.
Ouais, j'en parlais déjà il y a 3 ans, je crois.
Alors, qu'est-ce qui se passe cette année, du coup?
Alors, cette année, 3 ans plus tard, rien n'a vraiment changé. Je suis toujours sur mon sujet préféré, la preuve. Sauf que, en fait, ça fait vraiment à peu près 10 ans tous, ici autour de cette table, qu'on navigue, qu'on surfe sur le web. Et rien n'a donc changé. Donc j'ai fait une petite enquête auprès des 4 personnes autour de cette table.
Une belle enquête commanditée.
La conclusion est sans appel. Je ne suis pas la seule. Donc voilà le détail pour nos auditeurs qui aiment stalker. Fibre, tu ouvres sur tous tes fabs sur Chrome. Tu as Google Drive, ton emploi du temps sur Google Drive, Twitter, Deezer, Inbox et radurls.com. Magnifique site qui on vous renvoie vers d'autres sites internet.
Y compris également le Slack de 404.
Fayouve.
Voilà, dans les onglets que Fibre ouvre chaque jour.
Sur LinkedIn.
L'âme a 2 navigateurs. Chrome pour le perso, Firefox pour le pro et Edge en cas de login sur un 3e compte.
Ouais.
Je sais pas sur quoi tu te connectes, mais sur Gmail, tu peux être sur le même navigateur, tu sais. Sur Chrome, tu as donc 3 Gmail, Google Drive, et un lecteur RSS par défaut. Sur Firefox, tu as Gmail, Intercom, UserDeck, TweetDeck et un lecteur RSS par défaut. Il y a des trucs que je connais pas, c'est magnifique. Sylvain, Chrome avec Inbox, Google Agenda, 3 Slack, je sais pas lesquels c'est, Facebook Messenger et Twitter ouvert par défaut.
3 LinkedIn.
Et Daz à Chrome, un onglet Street Club, les vrais savent. Reddit, Slack, Twitter, le wiki de la Cogip et un Internet Explorer. Ça, c'est quand même magnifique. Avec les outils Cogipiens, 4 ou 5 onglets.
Ouais. C'est comme les mecs qui écoutent des vinyles. Il y a un son différent sur Internet Explorer. Il y a un rendu des images à l'ancienne que j'aime beaucoup.
Les outils sont nuls à chier, ils sont compatibles
avec
Internet Explorer.
Le fait de savoir que Daz est sur Internet Explorer tous les jours, ça me rend très heureux.
C'est la Cogip, hein. On vient de passer à Windows 7, les gars. Comprenez.
Quant à moi, j'ouvre chaque jour donc mon Gmail perso, mon Gmail pro, un compte Twitter pro, celui de Reader, mes 2 sessions Slack professionnelles, Facebook, l'outil sur lequel je travaille pour Reader, celui de Slate, les statistiques en temps réel des 2 sites. Et ça, c'est que l'obligatoire, parce que après, il y a toujours le Slack de 404 que j'ouvre quand je veux discuter de toutes vos relations amoureuses.
Il est pas obligatoire, celui-là. Je vais t'enlever un point sur Fidel.
Non, mais attendez, les mecs, vous postez tellement, je suis obligée de me faire des sessions de rattrapage tous les soirs, quoi. Si je faisais ça, je pourrais vraiment travailler pour 404 et juste vous lire. J'ai 2 écrans. Et donc j'ai toujours un œil sur TweetDeck et ça fait des mois que je vous en parle, ça m'obsède. Comme nous avons en fait nos dépenses contraintes, le logement, le transport, l'alimentation, je parle désormais d'onglets contraints. Tous les jours, je suis obligée d'ouvrir les mêmes. Alors vu que ça m'obsède, je suis allée chercher des trucs sur comment on navigue sur Internet depuis le tout début et j'ai trouvé une très vieille étude où en fait des chercheurs américains demandaient à des gens comment ils voyaient le web et
des chercheurs américains.
Hein.
Un petit hashtag des chercheurs américains.
Si vous voulez la trouver, elle s'appelle Metaphors We Surf the Web.
Ah.
Magnifique. Ouais. Et en fait, tous les gens à qui ils ont parlé parlent du web comme d'un espace physique, en oubliant toutes les potentialités et la virtualité du web et tout ce que tu peux faire. Les gens ont besoin de repères. Et en fait, c'est ça, nos onglets contraints, c'est un peu nos repères. Et comme on fait notre vie avec nos navigateurs, on a besoin d'aller toujours un peu au même endroit. De temps en temps, on se perd, mais on revient toujours à ces fameux onglets. Donc mon navigateur est un peu devenu ma nouvelle prison. Et tous les jours arrive ce moment où je me sens perdue. Je passe d'un onglet à un autre et je fais « Où suis-je ? Que fais-je ? » Et vraiment, je sais pas pourquoi j'ai changé d'onglet.
Tu cours partout, tu tapes contre les murs comme ça.
Il y a une espèce de blanc, je fais, mais qu'est-ce que je voulais faire? Pourquoi j'ai changé d'onglet? En fait, j'étais en train de faire un truc et je me suis dit, genre, non, j'ai pas zappé depuis assez longtemps, donc il fallait que je zappe. Et en fait, j'ai tout tenté pour ne plus être sur ce blanc. Et en fait, j'ai pas trouvé quoi. En fait, je continue à surfer sur Internet toujours de la même manière. Et donc, à la fin de la journée, j'ai à peu près ouvert 100 onglets. Et même si j'ai checké 4 fois Facebook dans la dernière heure et 15 fois Twitter, et ben je continue à le faire. Et en fait, c'est vraiment devenu un réflexe. Alors, en préparant cette chronique, je me suis retrouvée sur un vieux site qui explique comment surfer sur Internet en 2001, pour les gens qui savaient pas encore à l'époque. Surprise, ça n'a vraiment pas changé.
Donc ça n'a pas évolué en 15 ans.
Non. Ils expliquent, vous ouvrez un navigateur, vous pouvez aller dans un moteur de recherche, vous pouvez passer de lien en lien, parce qu'il y a aussi ça, on passe pas que d'onglet à onglet, on passe de lien en lien, qui ouvre d'autres onglets. L'explication, elle est encore valable aujourd'hui, quoi. Il y a pas de problème.
Il y a pas d'évolution.
C'est ça. Après, la seule vraie innovation, en fait, c'est Chrome. Parce qu'on est tous passés sur Chrome. Chrome n'existe pas depuis si longtemps. Et pourtant, en fait, quand on regarde les chiffres d'utilisation des navigateurs, Chrome, c'est 50%.
C'est énorme.
Dans le monde, hein. Parce que, après, si on prenait la France, je pense que Internet Explorer gagnerait. Contre 12% pour Internet Explorer et 10% pour Firefox. Et quand même 5% pour Opera. Ça, c'est beau.
Ouais.
Et du coup, quand j'en viens à naviguer sur mon mobile, je suis un peu heureuse parce que du coup, j'ai plus les onglets. Je suis sur une page et je bouge pas. Et donc, en fait, je reste sur cette page et je finis.
Il y a des onglets, mais tu ne les vois pas. C'est
ça. Ils sont masqués, ouais. Du coup, j'ai pas cette potentialité qui est très web.
Oui, de voir d'autres possibles.
Ça me rassure maintenant.
Donc tu aimes le mobile pour ça.
Et en plus, il y a un truc de nouveauté parce qu'en fait, on est sur mobile depuis 7-8 ans sur smartphone en tout cas. Ouais. Donc ça fait pas si longtemps. Et en fait, après avoir fait ce constat, je me dis, mais comment sortir de ce modèle de l'onglet? Comment c'est possible, en fait, qu'il n'y ait jamais eu d'autres propositions? Ça me fascine. Et donc, je pense que c'est la force de l'habitude, parce qu'il y a eu des tentatives pour des nouveaux navigateurs, mais en fait, on reste sur nos vieux trucs, quoi. La seule raison pour laquelle j'ai abandonné Firefox, c'est que ça plante tout le temps. Et donc, je me disais, mais pourquoi personne n'a inventé, par exemple, un navigateur où, genre, les onglets s'ouvriraient uniquement quand il y a une notif sur Facebook ou sur Twitter.
Les onglets dynamiques, quasiment. Ouais.
Mais où on saurait quelle est la notif pour qu'on n'aille pas voir quand José a publié le 12e commentaire sur votre statut à la con.
Mais ce sont LinkedIn, c'est important que José participe.
C'est important, c'est vrai. J'ai pas d'onglet contraint LinkedIn, faut le savoir. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais j'en suis à 4 ou 5 max, c'est déjà beaucoup pour moi. Donc j'attends la personne je fais un appel ici, solennel, qui inventera le nouveau navigateur, mais je pense qu'en fait on est tellement engourdis dans nos réflexes qu'on aura du mal. À tel point qu'en fait il y a un prof, je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, de poésie et littérature aux États-Unis qui avait créé un cours pour se réapprendre à se perdre sur Internet.
Ça intéresse
parce qu'il pensait que ses élèves pouvaient développer leur créativité grâce à ça. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression, à ouvrir tous ces onglets tous les jours, que j'ai plus ce truc où je me perds sur Internet. Ça m'arrive encore, mais je reviens toujours à ces onglets. Parce que c'est des outils indispensables, c'est Facebook, c'est les réseaux, c'est les mails. Mais ça bride ma sérendipité et j'en suis très triste. Donc j'espère que les auditeurs de Studio 404 pourront m'aider dans cette quête.
C'est un appel de Mélissa, chère start-upper. Elle veut piquer vos idées pour faire fortune avec. Mais en tout cas, c'est vrai. Comment essayer d'utiliser nos navigateurs qu'on utilise vraiment beaucoup, beaucoup, puisque maintenant beaucoup d'applications sont vraiment intégrées dedans. Et comment essayer de faire autre chose que de jongler mécaniquement, voire nerveusement entre les onglets qu'on voit toute la journée, qui sont toujours les mêmes et qui sont très, très nombreux. Est-ce qu'il y a une solution ou est-ce que c'est une fatalité? Daz, lève la main très haut comme en réunion.
Un seul mot.
Attention.
Un seul mot.
Daz. Ingratitude.
Ingratitude. Pourquoi?
Ingratitude. Parce que, Mélissa, je pense qu'effectivement, t'as commencé Internet il y a un an et demi, 2 ans.
Putain. J'étais là avant. C'était mieux avant.
T'avais 12
tellement
ans. Donc
pas
tu te rappelles
pas.
Non, mais tu te rappelles pas, mais, pour moi, les onglets, déjà, ça a été une révolution en soi. Donc ça, c'est Firefox.
Il n'y avait pas d'onglets, il y avait des fenêtres.
Oui, voilà. Donc ça change déjà tout. Donc là, principe que l'onglet, c'est ce qu'il y avait déjà en 2001.
C'était en 2000.
C'était Firefox. C'était 2004, 2003, 2005.
Ouais. Bon, c'était, voilà. C'était comme très tôt.
Donc avant, c'était super. Non, mais parce qu'elle parlait de, depuis 2001, rien n'a changé. Bah, excuse-moi, mais tout a changé depuis 2001.
Au lieu d'ouvrir des fenêtres,
entre 2001 et 2005, il y a eu
des fenêtres. La même manière que tu parles de Chrome, Chrome gère les notifs. Et certains sites, s'ils utilisent les bonnes API, peuvent popper en tant que notif, ce qui fait que t'as pas besoin d'ouvrir. Par exemple, Slack, t'as pas besoin de l'ouvrir dans Chrome.
J'ai les notifs sur Slack, c'est impossible, quoi. Enfin, je l'ai activé une fois pour 404, j'ai fait.
Mais faut savoir ce que
jamais.
Tu veux. Tu dis, je veux pas avoir la fenêtre ouverte parce que ça m'emmerde, mais,
oui, mais
je veux
si
pas les notifs parce que
là,
ça m'emmerde.
Je veux un navigateur qui me mette les notifs et qui me fasse, tu vois, une preview où je sais que je peux avoir cette notif.
Genre, vous
n'avez pas encore là.
Voilà. Ça, c'est le problème des gens qui savent pas spécifier un besoin, mais en fond.
Mais non, tu peux pas, j'ai cherché sur Slack.
Sur Slack, tu peux gérer les notifs, tu peux. Faire en sorte que ça réagisse à certains mots, à ton nom, à...
Oui, mais elle a pas été dans les réglages.
Mais là, du coup, c'est toute une programmation. Ouais, c'est toute une programmation.
Simple, bah, excuse-moi de à un moment donné, faut quand même un peu spécifier ce que tu veux. Non, quand t'achètes une maison, tu dis le nombre de pièces que tu veux, tu prends pas ce que tu veux.
Moi, j'aime bien une
ça.
Pièce qui pop quand j'en ai besoin, tu vois, genre, toilette, paf, une motif. une maison intelligente. Non, mais, il y a un portrait d'un navigateur que Mélissa a un peu esquissé, mais qui était intéressant, qui serait un navigateur visuellement total comme un navigateur de web. Donc, il a des onglets, mais qui sont cachés, mais auxquels on peut accéder. Et un mélange de ça et d'un navigateur avec des notifications intelligentes. Est-ce que c'est une piste intéressante ou est-ce que en fait on n'a pas trouvé mieux? Est-ce que Mélissa, si elle dit d'une certaine manière, c'est vrai que ça fait des années qu'on a des navigateurs à onglets qu'on fonctionne comme ça et qu'on a tous nos onglets qui restent toute la journée ouverts. On a même nos ordres bien spécifiques d'onglets si on se trompe. Est-ce qu'on n'a pas trouvé mieux finalement?
C'est marrant parce que Sylvain. Quand Mélissa évoquait le mobile en disant enfin j'ai une seule page et je peux me concentrer sur cette page-là, moi quand je mets Chrome en plein écran sur une page ou sur un site, etc., je me sens mais oppressé, en fait. J'ai l'impression que
toi, ça t'oppresse.
Les murs se resserrent et je peux plus rien faire d'autre que lire cette page et je peux plus aller nulle part, quoi.
Tu fais l'hyperventilation?
Ouais, je suis là. Le
stress.
Est-ce que quelqu'un peut appuyer sur F11?
Un petit F11 en forme de sac de papier craft pour que tu respires dedans.
Exactement. C'est exactement ça.
Ah, donc toi, ça te, contrairement à Mélissa, tu es content d'avoir ces onglets, de savoir que tu peux y revenir.
Parce qu'en fait, en plus, j'ai un peu tuné le truc en mettant plein de raccourcis clavier. D'accord. Pour gérer les onglets.
Donc t'es comme d'hab en fait, hein, quelque chose qui correspond bien, mais t'as travaillé.
Et je l'ai bossé pour que ça corresponde.
Ça demande beaucoup de temps, quoi. Moi aussi j'ai testé plein d'add-ons et de trucs sur Google Chrome, d'extensions sur Google Chrome, mais je les utilise jamais parce que j'ai pas le réflexe.
Mais comment tu veux que ça fit tes besoins si à un moment donné tu les spécifies pas? C'est ça qui me tue, moi. Ça c'est vraiment.
Ça devrait être plus simple, quoi.
Ça devrait faire des trucs auxquels je pense même pas moi-même.
Non, mais l'expérience utilisateur elle est quand même méga relou, quoi.
Ouais, je suis d'accord, je trouve
que c'est méga relou parce que
les deux lignes d'onglets sur Firefox, faut installer un add-on pour l'avoir, quoi. Tu sais pas par
qui a pas eu le fameux truc où les onglets sont gros comme les croix pour les fermer, quoi.
C'est ça.
Tellement qu'on a des onglets ouverts.
C'est pas possible, vu qu'on lit 100 trucs par jour aujourd'hui.
Fibre. Comment tu gères tout ça? Est-ce que déjà tu es un homme à onglets heureux ou un homme à onglets malheureux?
Moi, je suis un robot, donc je suis capable de faire tous les jours la même chose à la même heure et être hyper heureux. Donc, avoir mes 4 onglets, ça me rend heureux. Mais je tiens à préciser, il y a eu une mini évolution quand même de Chrome par rapport aux onglets.
Oui.
Puisque la page d'accueil de Chrome, c'est des petites cases dans lesquelles vous avez les sites où vous allez le plus.
Et ça a été adopté par beaucoup de navigateurs le font mettre.
Voilà, donc c'est un petit peu l'onglet du futur, si vous me permettez.
Ouais.
Et par contre, il y a quelque chose. Je suis à 50% d'accord avec Mélissa, à 50% pas d'accord. Je suis d'accord
sur quoi tu es d'accord.
Sur une chose qui est incroyable, parce qu'on a parlé dans notre dernière émission de l'immuabilité des choses. Et effectivement, dans les années 60, Xerox, ils ont dit, le truc qui s'appelait l'ordinateur et qui va révolutionner le futur et personne n'y croyait à l'époque. Il y a un écran, on va appeler ça le bureau. Et on va appeler ça les onglets, la métaphore COGIP, c'est bien cette thématique. On va avoir les dossiers, les fichiers, c'est-à-dire qu'on est dans une métaphore de comptable. Et si c'était Steve Jobs, c'est un peu Steve Jobs qui a piqué sur Xerox. Mais si c'était quelqu'un, un pixarien créatif, qui disait peut-être qu'on serait en train de, ce serait pas le bureau, mais ce serait le pré, le champ, ce serait pas les fichiers, mais ce serait les papyrus, tu vois, et ce serait peut-être un truc qui serait quand même super folklore et assez sympa. Et c'est là, ce que je reproche à l'onglet, c'est, on va dire, son mot. Onglet, c'est moche. Voilà.
Mais encore une fois, onglet, ça c'est arrivé au 21e siècle. Hein.
Bon, les tabs.
Non, mais
on a dit qu'on se freinait sur les anglicismes.
Ce qui est fou aujourd'hui, c'est que c'est la métaphore d'un truc que les gens vont oublier. C'est-à-dire que les gens vont oublier les casiers en fer et les onglets.
Le paradigme du bureau, je suis d'accord avec toi.
Voilà. Et ce sera un peu fun de changer.
Mais tu vois,
Microsoft, donc toi, tu aimes le système, mais pas quand c'est nommé, en tout cas.
Voilà. Et sur le point sur lequel je suis pas d'accord, c'est que il faut arrêter de nous casser les couilles avec la sérendipité et il faut se perdre dans le net, etc. Parce que aujourd'hui,
t'as pas le temps pour ça.
Non, il faut pas dire les réseaux sociaux, c'est ne pas se perdre dans le net. Le réseau social, c'est vous perdez dans la civilisation humaine. C'est,
ah,
c'est
la civilisation.
Oui, c'est-à-dire que le web, c'est devenu quelqu'un, le web, c'est devenu quelque chose de super monolithique. C'est-à-dire, c'est des pages web à l'ancienne. Alors, ok, vous voulez, creuser dans le passé, allez-y, il y a des archéologues. Mais là, ce qui se construit dans le futur, ce qui se construit de façon dynamique, le présent, c'est le réseau social. Et c'est, ce qui est intéressant, c'est que c'est fractal. C'est-à-dire, que c'est aussi dense et complexe que ce fameux web de la sérendipité qui est à côté. Et que vous regrettez, mais qu'on
s'en fout. Ça veut dire que, du coup, toi, tu te perds, t'as pas besoin d'ouvrir des onglets, enfin.
Bah, si vous allez sur Twitter, vous avez, à chaque seconde, plus de tweets que de tout le web statique. Donc, c'est, enfin, plus de contenu écrit que tout le web statique. Ouais,
je suis d'accord pour Twitter, mais sur Facebook, par exemple, c'est pas du tout le cas. Où tu vas avoir l'algorithme qui te présente les contenus, donc tu n'as plus aucune surprise. Sur Twitter, la force, c'est que ça reste chronologique et,
Oui, je parle des réseaux sociaux en général. Donc, si vous avez Twitter ouvert et Facebook, déjà, vous avez pas mal de sérendipité.
Mais qui ouvre d'autres onglets. Et pour en revenir à cette histoire d'onglets, visuellement et d'un point de vue design ou d'un point de vue conception, on se retrouve souvent dans ces cas où on a des fenêtres remplies d'onglets. Il y en a certains, on ne sait plus les casser. On commence à essayer de les trier pour mettre toutes les vidéos YouTube qu'on a pas eues parce qu'on reconnaît la petite icône rouge avec la flèche pour dire « Attends, ça, c'est les vidéos à voir plus tard. »
Ça sent le vécu, ça.
Non, je vois pas de quoi vous parlez du tout.
Tous les jours.
En plus, on a trois navigateurs ouverts. Est-ce qu'on a jamais trouvé de solution contre ça? Effectivement, comme disait Fibre, des fois c'est pas très sexy. C'est, on dit, y a des onglets de dossiers dans des classeurs. On n'a pas trouvé mieux que.
Comme présentation, tu veux dire?
Bah, je sais pas. Déjà, j'imaginais des onglets verticaux, par exemple, parce que ça pourrait être.
Ça bouffe un peu sur les.
Bah, le problème, c'est qu'on écrit à l'horizontale, donc un onglet vertical, le texte sera toujours rogné, quoi.
Ouais.
Et puis il y a le fameux triangle d'or. Je sais pas si vous savez, en haut à gauche. Ça s'appelle le triangle d'or. C'est là où l'œil se pose. Donc c'est sacré, il faut pas mettre des choses inutiles, donc faut mettre le logo par exemple.
Ouais.
Et donc l'onglet discret en haut, c'est mieux qu'un onglet qui prend de la place en haut à gauche.
D'accord.
Voilà.
Donc il y a pas de solution.
Après, enfin moi je suis un peu d'accord avec Daz sur le fait que quand on spécifie pas ses besoins et qu'on essaye pas de configurer et de personnaliser un peu le truc, c'est normal qu'on soit en face d'un truc qui ne corresponde pas.
Non,
le navigateur, ça reste notre interface principale.
Non, mais même quand tu le fais,
d'accès à Internet.
Plus, on navigue de la même manière qu'il y a.
Mais dis ça suffit.
Il faut aller chercher des extensions qui te permettent de faire des dossiers d'onglets. Il faut aller chercher des extensions à l'appareil clavier pour revenir à l'onglet précédent.
On retourne dans le débat Android iPhone. Les fans d'Android te diront, je peux tout faire avec mon Android, mais ça demande
du temps et
un peu de consommation.
Mais, enfin, je sais pas, quand t'achètes un lit, tu l'essayes, tu regardes si le matelas, il est
bien.
Oui,
mais t'es pas en train de dire, bon, j'ai changé un des ressorts parce que finalement, sur ces autres, ça va être plus intéressant. Puis en fait, du coup,
t'as raison.
Bon, le lit, il marche pas du tout.
Mais en fait, il y a un truc qu'on a pas dit aussi, c'est que l'onglet, maintenant, il devient de plus en plus lourd de sens. C'est-à-dire que l'onglet, par exemple, si vous avez une pub non désirée, vous savez, le fameux son qui vient d'un de vos 1 milliard d'onglets, vous avez une petite icône haut-parleur, vous savez d'où ça vient, donc vous pouvez le fermer.
Mais parce que du coup, comme disait Missa, les onglets sont devenus tellement importants qu'ils deviennent smart. Il devient interactif et on voit les icônes des.
Bah alors de quoi tu te plains, Mélissa, ils sont vachement bien les onglets.
C'est toujours le putain d'onglet, quoi.
Je vais vous dire quelle est la vraie escroquerie derrière tout ça. C'est que
c'est la vérité.
C'est que c'est simple. Vous lancez Chrome ou votre navigateur, quel qu'il soit, vous lancez le programme une fois et vous avez l'impression que c'est le cas. Vous ouvrez 12 onglets, vous avez toujours l'impression d'être dans la même instance de votre navigateur.
Ouais.
Mais si vous allez dans le gestionnaire des tâches, vous verrez que cette petite saloperie là de Chrome,
il remplit tout.
Lui, il a fait tous les onglets, c'est comme s'il lançait une instance de l'application. Et ça, je trouve ça dégueulasse, c'est scandaleux. Voilà, c'est ça pour moi le vrai problème. Et Mélissa n'aborde jamais les vrais problèmes. C'est ça le problème.
C'est notre navigation. T'aurais
dû rester
problème,
sur Firefox alors.
Non, parce que Firefox ça plante trop, c'est trop lourd. Ah, non, c'est dégueulasse. Ça a peut-être changé, mais j'ai arrêté moi Firefox.
Et pour en revenir à des idées du futur d'hier, on a eu ces fameuses pages custom, genre Netvibes et compagnie, qui disaient au lieu d'avoir 8 onglets ouvert avec toujours les mêmes, autant en avoir un seul, mais qui est un peu smart et qui a vos 8 services les plus utilisés qui reviennent.
C'est vrai que.
Il y a eu une mode de ça, moment.
Ça, ouais.
Enfin, il y a eu Google aussi qui a fait un concurrent de Netvibes, il y a eu ces fameuses pages. C'est un truc qui pourrait pas revenir d'une certaine manière.
Ça existe.
Bah, c'est pas Chrome le...
Non, mais c'est des extensions Chrome qui te permettent d'avoir tes flux RSS, d'avoir l'heure, la météo, voilà. Ça s'appelle des New Tab Extension. À chaque fois que tu ouvres un nouvel onglet, t'as toutes tes infos.
D'accord.
C'est ce que j'utilise. Je vous partagerai mes petites astuces. J'ai bien aimé tuner Chrome.
Bon, en tout cas, si vous, chers auditeurs, vous avez des suggestions pour améliorer votre navigation, essayer d'échapper à la dictature de l'onglet, ou alors embrasser l'époque de l'onglet, en tout cas, on est très preneurs. Allez, on attaque une nouvelle FAQ.
FAQ.
Alors, on en a parlé très rapidement tout à l'heure, mais on revient dessus. On me demande, Lucille, avec un L, parce que c'est son nom Twitter, Lucille avec un L sur Twitter, me dit « YouTube Red, top ou flop ?» Moi, je pense que c'est un peu tôt pour dire top ou flop, mais en tout cas, dans le concept de YouTube, c'est-à-dire un YouTube payant pour ne plus avoir de pub et pour pouvoir mettre hors ligne, avoir un accès hors ligne à certains contenus, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de la part de YouTube ou est-ce que vous trouvez que c'est nul à Yesh. Fibre, YouTube Red.
Je l'attendais, je l'avais préparé.
Ouais.
Alors, j'ai une réponse en deux temps, parce que j'ai ma réponse initiale et j'ai changé d'avis depuis.
Toujours très sobre, tes réponses, Fibre, après des factures.
Réponse initiale, non. Je refuse de payer, ça va, eh oh. Et j'avais pensé éventuellement quelque chose comme Cam4, je sais pas si vous connaissez Cam4, c'est un Twitch du porno, en fait. C'est des nanas qui se disent, dès que j'ai $500, je me fous à poil. Et donc, toi, tu peux mettre $1, t'as un mec qui met $1, et puis des fois, t'as un mec qui met
$100. C'est vieux comme les Cam Girls, ça. Voilà, c'est ça. Packagé comme un Twitch.
Voilà, okay. C'est ça, et tu payes à distance. Et ce qui est cool, c'est, je verrais bien un documentaire YouTube qui dise, bah voilà, il est là. Dès que j'ai $25,000, ben, vous pouvez le voir. Et donc, les gens, ils mettent un, et puis, au lieu d'avoir 25 000 views, tu vois, une sorte de paiement participatif.
Ah, d'accord.
Voilà ce que je proposais. Mais, récemment, vous verrez dans ma...
Il est en train de sa veste, lui.
Ouais. Je prépare psychologiquement les gens à ça.
C'est bon, tu parles de crowdfunding et de Kickstarter dans la vidéo.
Mais,
quoi.
Cela ayant été dit, j'ai dû aller voir des youtubeuses récemment, des youtubeuses vidéo.
Oui.
Pour une raison que vous verrez bientôt. Et, j'ai eu des pré-roll pub de 1 minute.
Ouais.
Et à pouvoir de la pub ensuite, puisque c'est des vidéos, des youtubeuses. Et je me suis dit, mais c'est insupportable quand c'est inskippable. Et je me suis dit.
Oui, mais d'une certaine manière,
si j'étais accro.
C'est un service qui a des coûts.
Ouais, justement. C'est pour ça que je me suis dit, si j'étais vraiment accro youtubeuse.
Ouais.
Je serais obligé de payer.
D'accord. OK.
Voilà. Et je l'accepterais puisque on est vraiment dans le système de Deezer et voilà. Pourquoi pas.
Très bien. Quelqu'un a une réponse? Sylvain.
Moi, je pense pas. Enfin, je trouve que c'est pas une bonne idée. Je trouve qu'ils auraient plutôt dû faire des deals avec les youtubeurs et les youtubeuses.
Il y a des deals hein, en fait.
Ah, pour mettre de l'accès payant. Non, mais en fait, exclu.
Il y a des deals et c'est même une des grosses polémiques de YouTube Red, c'est que les gros youtubeurs sont presque obligés de
forcer. Oui, ils sont forcés
de suivre YouTube Red. Mais d'ailleurs, on peut comme sur Twitch donner de l'argent maintenant aux youtubeurs. Donc les fameux subscribes, les fameux subs, ils vont être intégrés à YouTube Red. Donc
ok, bah en alors plus, c'est bon, alors je dis que ça marche alors, s'il y a ça.
Alors moi,
ok, d'accord. Sylvain est pour.
J'ai juste une question en fait, c'est vis-à-vis du youtubeur en question. Donc s'il participe à ce truc-là, ça veut dire que ses vidéos sont disponibles sans pub.
Pré-roll et il touche une partie des 10 € que vous payez par mois, d'accord. Selon votre consommation.
Par contre, sa vidéo reste disponible avec tous les pré-rolls qu'il faut.
Il n'y a plus de pré-roll.
Ben non, mais pour ceux qui ne payent pas, par contre.
Exactement.
Bon, bah donc, à la limite, le mec, c'est l'embarras du choix, quoi. C'est-à-dire que les gens qui payent pas, ils auront toujours les mêmes trucs avec le même.
Mais est-ce que toi, tu paierais pour YouTube Red pour avoir un YouTube sans pub?
Non, pas pour le contenu qu'on me propose aujourd'hui, mais ça peut changer dans quelques temps.
D'accord.
Peut-être que justement, ce truc-là va même encourager des gens qui...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je serais pas lancé dans l'aventure à faire des trucs, donc moi pour l'instant, enfin, je vois pas le mouvement est logique de la part de Google. On l'a bien senti de toute façon avec justement les pré-rolls inskippables,
ouais,
qui sont de plus en plus nombreux maintenant. Bon, moi c'est, enfin, ça suit la continuité du truc. Les mecs ils font leur bise. Et encore une fois, ceux qui crient par rapport à ce truc-là, c'est des gens qui ont fondé l'intégralité de leur modèle économique sur une plateforme qui peut changer de règles quand ils veulent, en fait.
Ouais.
On a le même problème avec les gens qui sont sur l'App Store, avec des applications qui font des trucs, et le jour où Apple décide de changer les règles, bah, les mecs se retrouvent limite au chômage. Et,
ouais.
Pour moi, quand tu acceptes de mettre ton destin dans les mains d'une plateforme qui, tu le sais, ne t'appartient pas et de nature à changer de règles assez régulièrement, faut pas t'étonner, quoi.
Ouais. Mélissa, est-ce que toi tu t'abonnerais à YouTube Red pour pouvoir consommer, parce qu'on consomme tous toute la journée du YouTube, on va pas se mentir, mais sans les pré-rolls, donner la possibilité de donner de l'argent directement aux créateurs de contenu et pour pouvoir télécharger et accéder à des vidéos hors ligne?
La force de l'habitude fait que je suis déjà habitué aux pré-rolls et à les fermer. Je sais pas si je pourrais encore les fermer.
Mais non, c'est ça le truc.
Parce que Spotify, en fait, comme ça s'est lancé direct avec les pubs en québécois, j'ai payé direct parce que ça me tuait, quoi.
C'était tellement malin pour faire payer les gens. Les pubs en québécois.
Salut la gang.
Du coup, j'ai été choqué direct. Alors que là, je suis habitué. Ça fait 10 ans que YouTube existe. Enfin, je suis habitué à 10 ans de pubs. Et comme disait Daz, la qualité du contenu pour l'instant fait que j'ai pas encore envie de payer, quoi. Ou alors je paierais pour certaines personnes. Mais...
Ça viendra peut-être. Ouais.
Bon, en tout cas, vous êtes pas plus choqué que ça.
Non, c'est la logique des choses, en fait. Ouais.
Oh là là, vous êtes sérieux, on dirait une réunion
de la cochette. On est fataliste un peu.
Allez, on attaque tout de suite la troisième chronique.
Sujet numéro 3.
Avec Kickstarter, achetons-nous une promesse ou un résultat?
Bien.
Waouh. Cette chronique, j'étais pas au courant.
En fait, on n'a pas voulu te la dire.
Il m'a volé ma chronique.
En fait, on sait que tu détestes Kickstarter, donc en cachette dans ton dos.
Encore une fois, c'est un pif de titraille, mais bon, on s'en rend.
D'accord. Ok.
Allez, Daz.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit son PayPal, il rendit grâce, se connecta et vira des euros au dev en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon oseille, livré pour vous. Alléluia, mes frères. Alléluia, mes frères. » C'est ainsi que devrait commencer toute newsletter concernant un jeu vidéo. Parce que force est de constater que, plus que les CPU multicores, les shaders chatoyants ou les GPU sous stéroïdes, ce qui anime principalement un jeu vidéo de nos jours, c'est la foi.
La foi qu'un grand F.
Ouais. La foi, d'ailleurs, oui, j'ai mis des F majuscules partout. Voilà. Parce que moi aussi, je suis un peu croyant. Donc la foi des devs, pour commencer, mais également la foi des joueurs. Jusqu'à présent, la foi, c'était bien connu, déplacer les montagnes. La foi a pris du level puisque désormais, elle génère des montagnes de cash. Vous avez tous dans votre entourage une personne qui a un jour backé un projet Kickstarter. Si. Sur la base de quoi est-ce que ce projet a été financé? Des promesses. Des promesses et une vidéo inspirante filmée au 5D, agrémentée de quelques notes de piano mélancoliques, où un dev norvégien explique face caméra comment ce projet lui tient à cœur depuis son adolescence, passée dans les faubourgs de Kongsberg. Tcha-ching! Prends ma thune, Magnus Christophersen. Prends ma thune. Les plus studieux balanceront un aperçu d'un proto jouable, les plus fortunés un trailer tout en images de synthèse, mais globalement le client, c'est comme ça que j'aime appeler les gens qui payent un produit en fait, je suis un peu au soude. Le client ne verra le produit fini qu'à la toute fin du développement, ou alors aux différentes étapes clés de celui-ci, avec les habituelles versions alpha, bêta et autres gamma. Mais ça, c'est si le dev débute un jour, parce qu'après tout, les promesses faites en plein air sont emportées par le vent, comme le disent nos amis écossais. Prenez le cas de Star Citizen par exemple. Alors attention, disclaimer, j'ai pas du tout envie de tirer sur une ambulance qui roule vers la morgue, pour reprendre la formule de Fibre Tigre.
Pour rappel, Star Citizen, qui est un simulateur spatial très ambitieux, qui a levé beaucoup, beaucoup d'argent, mais qui n'a toujours pas montré le jeu complet.
C'est ça, voilà. Donc, sur le papier, le jeu, donc, tu l'as dit, Lam, avait l'air ambitieux. Le financement a dépassé toutes les espérances, au point qu'il est rentré dans le Guinness Book des records, je crois.
On a dépassé les 93 millions de dollars.
Voilà. Moi, je me suis arrêté à 80 millions en avril. Après, j'ai arrêté de compter.
On est à 93 millions.
Voilà. Mais à lui seul, ce jeu symbolise tous les espoirs qui peuvent être placés par les joueurs et toutes les dérives de ce mode de fonctionnement. Parce que la vie, c'est pas le rêve, comme disaient les rappeurs marseillais. Dans les années 80-90, pour rêver d'un jeu, il suffisait de regarder la jaquette, puis de retourner la boîte et de regarder les deux ou trois screenshots de 2 cm de côté. Bien souvent, ces images étaient tirées de la version arcade du titre, donc on était ultra hypé, jusqu'à ce qu'on arrive chez nous et qu'on boot notre Amstrad CPC 6128, et que la réalité ne vienne éteindre tous nos espoirs. De nos jours, il n'y a plus de boîte, alors on rêve en écoutant un responsable projet, un visionnaire, nous parler de simulation réaliste du mouvement des corps célestes, de génération procédurale, de déformation de l'asphalte en temps réel, ou d'alternance jour-nuit avec de vrais impacts sur le comportement de la faune. En somme, on s'engage maintenant pour ce qu'on imagine que le jeu sera, plus que pour sa réelle forme finale, qui, ça se trouve, on verra finalement jamais. Sans aborder le modèle économique à l'œuvre, on constate quand même que le marché s'est ajusté, et que les grands studios qui, normalement, n'ont pas besoin de Kickstarter pour financer leurs titres, se sont lancés tous, plus ou moins avec succès, dans la mode du Season Pass.
Donc il y a une autre forme de promesse.
Voilà, c'est également une promesse, c'est-à-dire que le Season Pass, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, dans 404 pour bien lui chier à la gueule. Le Season Pass, c'est le principe de payer en avance pour du contenu qui a même pas encore été défini quand ton virement est encaissé.
Voilà. D'accord.
Alors la question qui subsiste, c'est mais d'où vient cette foi et surtout pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens sont capables d'abandonner leur foyer pour suivre le premier bonimenteur venu qui promet monts et merveilles? Donc j'ai enquêté pendant de longues minutes sur ce sujet quand même.
Après le sondage auprès de 4 personnes de message, on sent que 404 c'est l'avenir du journalisme.
Et je pense avoir la réponse à cette question. Pour moi, la cause de ce truc-là, donc le fait que les gens payent sur du vent, c'est la faute du progrès.
Ah,
eh oui, madame.
Il a le bon dos, le progrès.
Eh oui, parce qu'un jeu 8 ou 16 bits affichait des trucs à l'écran, mais c'était le cerveau du joueur qui donnait le sens et qui interprétait et liait entre eux les concepts qu'on lui proposait. Mais les jeux modernes, en fait, ils sont tellement aboutis que la place laissée à l'interprétation s'est réduite jusqu'à disparaître. Le joueur, en tant que tel, n'a plus de prise sur l'univers qui lui est livré clé en main et qui est si complet que finalement, il n'a pas besoin qu'on essaye d'expliquer plus ou de réfléchir un peu plus au concept pour qu'il soit cohérent. Le joueur, donc, reste un petit peu à l'extérieur, comme quand on regarde les vitrines de Noël, Boulevard Haussmann, Galerie Lafayette, il y a des mecs qui ont fait des trucs, mais nous, on ne participe pas, en gros.
Vous rêvez.
Le seul moyen de regagner du terrain, du coup, c'est justement d'arriver avant le terrain. C'est de faire fonctionner son imagination et de participer à l'élaboration de l'univers quand rien n'a encore été fixé.
Ah, carrément, tu penses que c'est ça?
Pour moi, c'est ça, en fait. Les gens qui back les projets sur Kickstarter, qui pledge, qui donne de l'argent sur la base de d'un pitch, ouais. D'un elevator pitch limite.
Ouais.
C'est des gens qui ont besoin d'avoir l'impression de contrôler quelque chose. En
ouais.
Fait. Donc il y a peut-être un côté contrôle fric aussi. Là. En y réfléchissant, c'est peut-être même pour ça que les jeux indés, on va dire 3 jeux indés sur 4, hein, sont faits en pixels tout pourris. C'est pour que l'imagination des joueurs
gratuit,
continue à tourner à plein régime. Shots fired. Enfin, je pense que c'est la raison. Plus que sur une paresse graphique des gens. Donc, merci les mecs, c'était super sympa, mais fallait pas. Vraiment. Je terminerai cette chronique par la profession de foi des gamers.
Des gamers qui ont la foi, ouais.
Donc là, faut lever vos mains vers le ciel, comme on fait à l'église, si vous connaissez l'église. Je crois en Peter Molyneux, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, mon populus, et en Jésus-Christ Roberts, son fils unique, notre Seigneur qui a conçu Wing Commander, a fait du ciné après Freelancer, a été crucifié à cause d'Outlander et mort, a été enseveli et descendu sur Kickstarter, le troisième jour a tout pété avec Star Citizen, est monté aux cieux, est assis à la droite de Molyneux, le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vapeurs et les wares. Je crois en des jeux pas commencés, à un gameplay sain mais pas défini, à la levée de fonds, aux présentations PowerPoint, au PayPal conquérant, aux vidéos sous Vimeo et aux promesses sous coke. Amen.
Amen. Bon, alors, du coup, alors, la fin de ta chronique, j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux, mais quand même, c'était intéressant. Mais du coup, cette histoire de foi.
Tout est tiré par les cheveux depuis le départ.
Non, mais cette histoire de foi dans une époque où justement, les gens passent leur temps à débattre, à être un peu, pas terre à terre, mais à avoir des arguments à droite à gauche, et on se retrouve, dans une expérience qui vire,
C'est ce que je trouvais marrant, en fait, parce que, t'as d'un côté des gens qui sont prêts à suivre n'importe qui leur promet des trucs et, à pledger, je veux dire, les montants qu'on voit pour Star Citizen, c'était un peu n'importe quoi, je veux dire.
Oui.
Les gens qui achètent des vaisseaux in-game, mais avec du vrai argent pour $1,000 le vaisseau ou $15,000
pour la promesse du vaisseau.
Ouais, oui, voilà. Ça, pour moi, c'est la folie. Et dans le même temps, quand on est sur Reddit, sur des jeux qui eux ont une existence physique concrète, c'est-à-dire qu'ils existent réellement, on a des gens qui sont limite en train de se dire, mais attendez, votre jeu coûte $60. $60, si je mets le temps que je passe par jour à y jouer, ça veut dire que je l'amortirai dans 4 mois et demi, mais c'est incroyable. Donc t'as le côté ultra cartésien pour tout ce qui existe, avec des gens qui sont capables de décrire des wall of text pour juste j'ai pas envie de payer $20, en gros c'est ça le truc.
D'accord. Et par contre quand le jeu n'existe pas, c'est encore la fiesta, c'est encore open bar.
Moi YOLO Las Vegas, allez c'est parti, je mets les économies de la famille sur ce jeu qui sortira peut-être jamais finalement.
Est-ce que cette vision, vous avez déjà adhéré, vous Mélissa, Sylvain, Fibre, est-ce que vous avez déjà été hypé par un projet, alors pas forcément un jeu vidéo, parce qu'on voit qu'aujourd'hui il y a des promesses de projets, même de films, de livres, d'objets, etc. Et vous êtes dites juste le concept et ça m'excite de participer à ça, même si je suis pas sûr que ça marche. Et on sait qu'il y a une grosse mortalité, un gros taux de fail des projets qui sont annoncés en avance. Est-ce que vous avez déjà adhéré et donné de l'argent pour ça, Sylvain?
Au tout début,
ouais.
Quand en fait j'avais en tête, j'étais quand même toujours dans la culture du fait que quand tu donnes de l'argent pour un service, le service on va te le donner.
Il y croyait.
Donc moi je me disais c'est bon, ils vont le faire, il y a pas de souci. Enfin je leur ai donné de l'argent donc ils vont le faire.
Et oui évidemment.
Ils vont le faire, rassure-moi. Et en fait quand il y a les fails qui ont commencé à arriver etc, je me suis dit ouais, c'est pas, je vais arrêter.
Tu vas revenir à un mode de consommation de base qui est une sorte de Saint Thomas, je crois ce que je vois. Quoi.
Voilà. Et après quand c'est des potes ou que le projet a l'air vraiment bien, que ça me tient à cœur et en fait je donne pour aider les mecs plus que pour recevoir le truc ou.
D'accord.
C'est plus philanthropique.
Mélissa Fibre, est-ce que vous avez déjà...
Je suis en état de souffrance.
C'est bien parce que Fibre, comme il est en mode camembert coulant ce soir, il est trop fatigué pour taper sur la table. Est-ce que vous avez déjà été emporté par l'envie d'y croire?
Et moi, j'ai acheté récemment un Season Pass.
Ah, alors Fibre, t'as acheté un Season
Pass. Sur Outer.
Season Pass sur The Witcher 3.
Donc The Witcher 3 qui est un grand jeu.
The Witcher 3 c'est un jeu extraordinaire, on en parlera peut-être un jour, mais en fait le Season Pass c'était le jeu complet plus 2 extensions.
D'accord. Donc les extensions qui ne sont pas sorties, qu'on n'a pas vues.
Alors la première vient de sortir.
Oui. Mais
la,
à l'époque, la, le, deuxième le jeu va sortir. Sorti.
Le jeu, on est, enfin, pour le coup, on était sûr qu'il allait sortir, y compris les extensions. Et il est d'une qualité telle qu'on est dans nos frais. Et puis en plus, c'est le président de Good Old Game. Donc c'est, on va dire, c'est des gens qui sont plutôt généreux de nature. Donc c'était un bon business. Voilà.
Donc là, tu as suivi. Tu as suivi de manière pas, on parle pas de foi ou de coup de folie, tu as suivi sur des critères quand même assez pragmatiques.
Complètement,
voilà, c'est un jeu qualitatif, il est sorti, la, voilà, le studio l'a une bonne réputation, tu t'es pas dit genre, oh, la promesse de jeu, ça a été énorme.
Et le season pass, l'air de rien.
Mais tu l'as acheté dès le départ ou tu...
Dès le départ, le season pass, l'air de rien, il est moins cher. Enfin, c'est quand même un bundle. C'est-à-dire, c'est quand même quelque chose qu'on achète plein de...
Oui, il est moins cher que la somme des extensions.
Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, quand tu es sûr que tu vas jouer à toutes les extensions, c'est un bon plan.
Le problème, c'est que justement, t'es pas sûr, en fait. Parce que si tu prends le cas de Battlefield 4, il a mis un an à être stable.
Ah, mais donc, moi, j'ai...
Donc, quand le jeu a été joué...
J'ai acheté The Witcher 3, moi.
Le principe, oui, c'est ça, c'est des jeux ambitieux. Bah oui, c'est des jeux ambitieux qui sont marketés avec Season Pass, mais si le jeu de base, déjà, il met un an à être stable, réellement, donc exploitable.
Tu as fait le pari que le jeu était assez bon.
Les gens reviennent pas dessus, en fait, ils sont
déjà
partis.
Je me suis renseigné.
Mais est-ce que tu as déjà participé à des projets et juste, peut-être aussi le plaisir de dire je suis excité par le projet, je suis excité par la promesse et que c'est pas sûr, le risque que ça crée, est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait sauter le pas aussi? Ou t'as toujours refusé ce genre de choses?
Alors je l'ai fait au tout début, l'excitation je l'ai eu au tout début comme Sylvain, ouais, sur des trucs américains où j'étais pas du tout liée au truc et
des trucs américains. Après les études américaines, pour les
chercheurs américains, les Kickstarter américains.
Des projets américains où je me disais waouh, ça a l'air trop bien et tout, et où tu reçois 3 goodies et tu fais ah ouais, c'est vraiment de la merde en fait. du coup, j'ai perdu la foi. Et donc je me suis mis à backer des projets de potes ou de documentaires où je me disais c'est vraiment important que ces trucs se fassent, mais où jamais tu reçois le DVD ou le lien pour le regarder, enfin c'est galère, quoi.
On se rappelle de Locan, hein, comme le DVD de Locan.
Ou alors maintenant j'ai un nouvel usage de comme il y a plein de médias qui font quand même des trucs de crowdfunding, souvent ils te donnent un accès à la bêta, donc comme j'adore aller voir les trucs avant qu'ils sortent, ouais, forcément je fais ça juste pour stalker les médias qui sortent avant qu'ils sortent.
D'accord.
Voilà.
Si, bon.
Alors, juste pour revenir sur Star Citizen, qui approche les 90 millions de levées.
Qui a dépassé les 93 millions, qui a dépassé le 100 millions de backers.
Mais pas via Kickstarter, précisons quand même.
Donc, oui, mais par une autre campagne de levée de fonds.
Et précisons également que nous ne parlons pas de crowdfunding aujourd'hui, parce qu'on en parlera un jour de façon éclairée, qu'on va parler d'un autre sujet, d'accord? Mais, alors moi, je vous propose à l'équipe 404 un pari. Moi, je suis le seul à tenir les paris, puisque je suis toujours un clavier Beppo, je rappelle.
Donc, je propose c'est vrai que tu continues de ces claviers Beppo dont on a parlé il y a 6 mois.
Voilà, moi je tiens le pari de ce que vous voulez, que Star Citizen va tenir ses promesses et qu'en 2016 on va avoir un Star Citizen jouable.
Tu paries combien?
Sa promesse c'était 2014.
Ouais, mais il dit 2016 et ouais, là bah oui, moi je le crois. Non non,
c'est comme les jeux PS qui recalculent leur destination, quoi, ils sont jamais.
Je dis 2016.
Bah,
qui tient le pari?
Bah évidemment 2016.
Bah moi je suis obligé de le tenir parce que j'ai backé le jeu moi.
Non mais 80.
Mais j'ai dépensé 16 euros. Bon.
90 millions de dollars levés plus 4 ans de dev, au bout d'un moment, oui, ça, il y a quelque chose qui va sortir, ça c'est à peu près certain.
Donc c'est pas un acte de foi.
Bah c'est un acte de foi parce qu'il
y a encore des gens qui pensent que c'est...
Non parce que moi autant je suis très sceptique sur l'ensemble du crowdfunding, mais après il faut voir Chris Roberts, c'est quand même un mec, il a fait Wing Commander, qui à l'époque était aussi ambitieux que Star Citizen l'est aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Oui, comment
le mec, il a fait des choses extraordinaires, il a vendu sa boîte très cher, il est allé dans le cinéma, il a fait Lord of War, s'il vous plaît, c'était pas un mauvais
film. Il a fait Outlander, tu te rappelles ou pas?
Ouais.
Voilà.
Et après, il revient, il fait le plus gros Kickstarter du monde, le mec, c'est bon, il tient la route quand même, un moment, enfin, il faut faire confiance aux gens.
Mais le problème, t'as la foi.
Ah, moi, j'ai une foi raisonnée, parce que le mec n'a fait que des réussites,
non,
je veux dire, à un moment.
Fois,
tu
ouais,
dis,
non, justement. Non, on parle de Star Citizen, mais c'est juste, en fait, il faut vraiment se concentrer sur ce sujet de foi. Est-ce que vous avez envie parfois d'y croire?
Pour répondre.
Et de manière non rationnelle, ou pas?
Pour répondre sur la foi.
Oui.
Les gens qui pledgent sur Kickstarter, tout ça.
Même le mot pledge, il est beau,
oui,
le mot.
Oui, ouais. Les gens qui contribuent.
L'allégeance, quand même.
Qui font aumône à ces projets, ils le font, non pas pour le projet, mais ils le font pour eux. C'est-à-dire que ils se disent tiens, moi je soutiens les jeux indés, je suis comme ça, je suis un mec cool, je suis dans le Kickstarter game, je fais un acte militant, tu vois, je crois au crowdfunding, j'aide ces petits mecs auxquels je crois, ils le font pour eux.
Et c'est ce que disait Fibre, c'est ce que disait Daz et complètement, c'est ce que disaient Sylvain et Mélissa en disant que ce sont des projets d'amis ou des projets comme ça, j'ai envie d'aider.
C'est-à-dire
en fait ils soutiennent
pas
des valeurs
produits,
plus qu'autre chose.
J'irai
encore plus loin, je dirais qu'on est proche du mec qui a trop de thunes pour vivre et qui, ce qui est un peu notre cas à tous finalement, et qui se paye des Van Gogh. Je veux dire, ça sert à rien d'avoir un tableau chez soi plutôt que dans un musée. Et le mec,
il se paye.
Ok, non, bah, ouais, voilà. On enlève les politiciens qui se font des cadeaux de tableaux riches, mais à part ça, les mecs qui achètent de l'art, finalement, ils achètent des choses immatérielles, souvent, notamment l'art contemporain, c'est-à-dire, c'est un peu spéculatif, on n'est pas sûr,
c'est un peu immatériel. Quelque chose qui existe, t'achètes un tableau. T'achètes pas le peintre qui doit te peindre un tableau si Hamdoullah.
Ben moi personnellement, si j'avais 25 millions de dollars au lieu d'acheter un Van Gogh, je me ferais faire un GTA sur mesure qui se passerait dans 5e arrondissement, tu vois. Et je serais le seul à y jouer, tu vois.
Là t'as la foi quand même.
J'aime bien l'argument de Daz sur les mecs qui payent parce qu'ils ont l'impression de participer à quelque chose du coup.
Ouais.
T'es en train de dire qu'il y a des gens sur Internet.
Est-ce que la foi c'est un plaisir aussi d'avoir la foi?
Qui sont prêts à payer pour exister.
Ouais.
Tu veux dire qu'il y a des gens sur Internet qui aimeraient exister un peu plus.
Ok. Je
d'accord avec toi. Tout se rejoint.
Je pledge donc j'existe. C'est très bien.
Là en fait on revient c'est à la beauté d'Internet et d'Internet social qui est tous les moyens sont bons pour exister quoi. C'est où tu prends une photo de tes pieds en vacances ou tu pledges pour dire que t'as pledgé, mais surtout c'est pour publier un statut.
Mais il y a une différence entre le pledge philanthropique là que Mélissa et Sylvain évoquaient, qui est de dire je donne de la thune sur un projet, mais finalement le produit fini. En fait, ça se trouve, je l'utiliserai même pas. C'est juste que je suis d'accord avec les valeurs des concepteurs, etc. Et il y a le côté vraiment ultra client d'un projet comme Star Citizen avec des stretch goals qui sont très identifiés et où quand tu donnes de l'argent, tu sais ce que tu payes et tu sais pourquoi tu vas le payer et tu attends quelque chose en retour. Et c'est pour ça que les mecs sont obligés de faire un SAV de fou furieux parce que tous les gens qui ont backé sur Kickstarter ou qui ont payé sur la campagne directement sur le site de RSI se retrouvent en fait. Sur les forums à dire bon ben quand est-ce qu'on voit quelque chose, etc. Donc les mecs ont vraiment, c'est-à-dire le type donne $50 et ensuite pense qu'il a le droit d'aller se mettre derrière le développeur au-dessus de son épaule et lui dire bon quand est-ce que tu codes mon vaisseau là parce que t'es gentil mais moi j'ai payé quand même, tu vois. Donc il y a un côté sur Star Citizen, ils sont pas du tout les mecs dans l'objectif philanthropique, oui créons une communauté spatiale machin, non, les mecs ils veulent un jeu et c'est d'ailleurs pour ça qu'on leur a filé des petits modules pour les faire patienter. Mais bon, le type qui a pledgé pour un vaisseau à $15,000, le fait de pouvoir tourner depuis 2 ans et demi dans le hangar pour le regarder sous toutes les coutures, mais de pas pouvoir l'utiliser dans le jeu, je pense qu'au bout d'un moment, ils commencent à en avoir ras-le-bol, les mecs. Et tu vois que côté Star Citizen, ils sont en train de rembourser les gens. Notamment, il y a eu un clash gigantesque avec un mec à moitié mytho. Là,
et pour rebondir sur Star Citizen, il y a son rival qui s'appelle Elite Dangerous. Qui est passé par un système de crowdfunding et de promesses, oui. Et qui aujourd'hui, donc le jeu sorti est une réussite. On est très objectif, hein, 404 sur Elite Dangerous.
Il faut savoir que Daz a un t-shirt Elite Dangerous.
Là, en ce moment, oui.
Subjectif.
Mais carrément que Elite Dangerous a lancé un lifetime pass. Donc c'est-à-dire que Elite Dangerous propose pour une somme assez coquette, quand même, de 140, 150 voire 200 euros,
150 euros,
de recevoir à vie toutes les prochaines extensions du jeu. Mais on ne sait pas combien on aura. C'est juste que tant qu'ils en sortiront, on y aura accès, mais on sait même plus quantitativement ce qui va se passer.
Et alors, regarde-moi.
C'est plus un season pass, c'est un live pass. Qu'est-ce que vous en pensez?
Et là-dessus, la MUA.
Oui.
J'ai passé, une bonne partie de ma vie sur ce jeu.
Oui.
Quand même, depuis sa sortie. J'ai pas pris le lifetime pass.
Ah, donc tu l'as pas pris?
Non, je l'ai pas pris.
D'accord.
Parce que moi, je prends les extensions que je vois et, quand j'estime qu'elles sont ok,
Mais tu as quand même précommandé l'extension du jeu?
Non.
Ah non, même pas.
Non. Elite Horizon, je l'achèterai quand il sortira. Et tant pis si j'ai pas effectivement les 10 euros de réduction, mais je m'en fous un peu. Mais moi, personnellement, je suis à fond Saint-Thomas, quoi. J'attends de voir, et si ça me plaît, je prends.
Fibre, est-ce que tu serais excité par un Lifetime Pass sur un jeu ou un service que tu utilises énormément?
Alors, j'adore les Lifetime Pass.
Ah, toi, t'adores les Lifetime
Pass. Et tu sais, je sais pas si tu sais, les mecs qui achetaient des Lifetime Pass pour des avions, ils peuvent faire à vie n'importe quel billet de trajet d'avion, ils payent $200,000 et à vie ils peuvent utiliser une compagnie aérienne, tu vois.
C'est comme quand tu nais dans un train, tu sais.
Non, mais j'ai lu un article sur Vice où le mec il se lève le matin, il va à New York, il prend un dog, il revient le soir, tu vois.
L'empreinte carbone du type, quoi.
Ah non, ouais, il fait ça et voilà. Si tu aimes le jeu, comme moi j'ai aimé The Witcher, je l'ai validé. À partir du moment où je prends la décision, moi je suis très radical, je prends le Lifetime Pass, c'est une très bonne occasion. D'accord. D'autant plus que du coup tu payes pas, t'as plein de petits vaisseaux à 2 euros, hop, t'as pas à te faire chier à faire des transactions, à les payer, c'est fait, voilà.
Oui, tu reviens à ce qu'on avait dit plus tôt dans l'émission, si tu peux avoir un forfait global où tu payes tout et t'es peinard.
Oui, voilà, c'est ça. Cool. À partir du moment où tu as adhéré au truc. Voilà.
Un petit peu comme quand Chrome enregistre ta carte bleue, quoi.
Ouais.
Maintenant, t'as plus besoin d'aller la chercher. Lifetime Pass pour toutes les choses de la vie.
Ah là là là. Ça, c'est
quand même un truc de capitaliste, hein. Je suis désolé, mais...
Ah bah non, on parlait de foi, on finit sur du capitalisme. Non, faut finir sur un truc...
Ouais, mais c'est lié aux États-Unis, tu sais.
Ah d'accord. Allez, salut les Américains.
FAQ.
Petite FAQ de Marc Falzon, aka FalzM, sur Twitter. Il demande, ça a déjà peut-être été demandé, du coup, je me demande aussi, parce que je suis pas sûr, mais est-ce que vous avez une loyauté envers certaines marques de matériel technologique? Je pense que, je sais pas si ça a été posé dans une FAQ, mais on en a parlé assez régulièrement, mais est-ce que vous avez une loyauté? Et si oui, citez un nom. Fibre. Alors. Es-tu loyal envers une marque spécifique?
Confession de la honte.
Oui.
Je suis plus Xbox que PlayStation.
Pourquoi confession de la honte?
Parce que c'est objectivement, je suis dans le monde du jeu vidéo. Je veux dire, objectivement, les produits Sony, ils ont beaucoup plus de classe. La PlayStation, elle est classe.
Le pad de la Xbox One.
J'ai adoré la PlayStation 2. J'ai vécu des moments intenses. Je me suis fait niquer à acheter une Xbox 360. Maintenant, j'ai un compte Xbox Gold et j'ai acheté une Xbox One. Voilà.
T'as une loyauté de vassal, quoi. T'es un peu esclave de ton truc, quoi.
C'est un peu mon péché caché, mon péché mignon. Voilà.
D'accord. Tu es loyal à Microsoft, contraint.
Voilà.
Est-ce que vous êtes loyal à une marque ou pas?
Ouais.
Par plaisir. Hein,
aussi. Moi, je suis loyal à une marque qui est coréenne, qui s'appelle Samsung. pour tout ce qui est frigo. j'achèterai jamais de smartphone Samsung.
Quel twist. Mais sont technologiques tes frigos, du coup?
Frigo Samsung et télé Samsung aussi, parce que c'est pas mal ce qu'ils font. Par contre, jamais de ma vie, j'achèterai un smartphone chez Samsung.
D'accord. Mais tu as une loyauté envers Samsung.
Ouais. Et j'ai une loyauté, du coup, envers cette marque-là que j'achèterai jamais. C'est une loyauté aussi de dire qu'on n'achètera jamais. Tu vois.
Ouais. c'est une forme de fidélité.
Mais sinon, non, moi, j'ai pas, en général, enfin, du côté informatique, finalement, à part les boîtiers Silverstone et les cartes mères Asus.
Bah, t'as une loyauté, alors, du coup.
Bah ouais, en fait. Merde.
Quel tocard. Mélissa, est-ce que t'es loyal envers une marque ou pas? Est-ce
non,
que tu...
Je suis loyal imposé, comme tout le monde.
T'es loyal imposé?
À la marque, à la pomme. Que je ne citerai pas.
D'accord. Donc Apple qu'on citera pas. Pourquoi tu es loyal? Est-ce que c'est comme fibre un peu parce que t'es un peu prisonnière et tu t'es engagée financièrement?
Non, simplicité d'usage et habitude, force de l'habitude.
Bah donc t'es pas forcée, t'es contente d'être t'es satisfaite par
non,
l'expérience.
Non, parce que je sais tout le caca qui est lié à cette marque, tu vois.
Tout le caca qui est lié à cette marque.
Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît?
Est-ce que tu peux? Non.
Bah, tout l'enfermement dans lequel on est quand on achète les produits de cette marque. Voilà.
Ah oui, d'accord. Donc toi en fait, le côté loyauté, c'est aussi une certaine.
C'est contraint.
Ouais, c'est. Tu sais que tu perds de la liberté.
Tout est contraint chez Mélissa, malheureusement.
Putain.
Sylvain. Tout le monde t'attend en tournant.
Je réfléchis à quelle est la marque technologique qui m'a suivi toute ma vie sans jamais que je lui fasse d'infidélité. Et je crois qu'il y a que AMD pour les processeurs.
Ah, c'est vrai?
Bah ouais.
Je crois que t'aimes bien Google.
Ben,
le rebondissement, quoi, tu sais.
T'es sur un AMD?
C'est comme dans Koh-Lanta quand un mec revient, a été éliminé, il a fait, mais qu'est-ce qu'il fout là?
La déception AMD, dans la voix de Dan.
Oh! Bah alors, il existe! Mais non, parce que je me demandais en lisant les trucs à chaque fois, mais qui achète cette merde? Bon, moi, je suis sur AMD pour la carte graphique, parce que bon, ATI, donc, ils ont été rachetés par AMD, donc maintenant je suis AMD.
Ouais.
Mais, putain, pour le processeur.
Toi, d'accord, Et pourquoi tu es loyal à AMD? Parce que ça a toujours bien marché, tu t'en fous de savoir, ou parce qu'il y a un côté, genre, je vais être rebelle par rapport à...
Ouais, il y a le côté, pas faire comme les autres. Et parce que...
Un hipster du processeur, mesdames et messieurs.
En arrivant avec son fixie.
Et parce qu'elle est moins chère. Et peut-être
elle est moins
aussi,
bien.
Mais après, moi, j'ai des passages. Je peux être loyal à une marque pendant 3-4 ans jusqu'à qu'il fasse de la merde, en fait.
D'accord.
Je suis assez pragmatique là.
Mais donc toi, AMD, t'es resté tout le temps pro AMD.
Ouais.
Mais surtout qu'ils font de la merde depuis 10 ans, donc.
Ouais, donc je savais pas, tu vois. J'ai pas d'éléments de presse.
Bon, très bien. Ben voilà, on a nos marques loyales avec le retour surprise d'AMD. Allez, on attaque la toute dernière chronique avec Fibre Tigre.
Sujet numéro 4.
Répétez et copiez-moi ça. Vive le plagiat.
Oh là, c'est bien. C'est cool de l'avoir en live, Angie.
Alors.
Fibre.
Tout d'abord, avant de commencer, un petit extrait d'une compilation audio de nos youtubeuses préférées.
Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale. Je dis ça dans toutes mes vidéos, mais voilà. Chaque vidéo spéciale, n'est-ce pas? J'avais envie de vous faire une vidéo spéciale, plus spéciale que les autres.
Hello, hello, c'est Sandrea et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale.
On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo un peu spéciale.
Et comme dans la dernière vidéo, qui était une vidéo très spéciale.
Yes! Je suis trop excitée les gars, je suis juste trop excitée.
Alors, ce montage n'est pas de moi.
Mais c'est très spécial.
Ah oui, c'est très spécial. C'est... on va dire
une compilation de d'introduction de vidéos YouTube.
Voilà, c'est ça. C'est intéressant de voir que toutes les vidéos sont spéciales,
ouais.
Ce qui fait que ça devient une norme, mais bon, peu importe.
Vous êtes unique comme tout le monde.
Voilà, réécriture, traduction, réappropriation notamment de tweets, reprise d'images, de concepts, banque de données de status Facebook qui donne du like. Le plagiat est quelque chose de courant sur Internet. Alors, exemple ultra frais sorti de ma timeline Twitter d'aujourd'hui. Donc, Boulet, Boulet Corp, blogueur BD.
Le fameux blogueur
voilà,
BD.
Qui ronchonne que ces images sont reprises, il a raison, hein, sur 9gag avec un watermark horrible, sans crédit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est effectivement, c'est, on va dire, c'est insupportable quand on est un créateur. Également, Monsieur le Prof, qui vient parfois à nos lives, hein, qui a eu un de ses tweets repris sur une belle image. Elle a, comme Sylvain nous décrivait tout à l'heure, avec un fond mis sur Facebook avec le saviez-vous, signé Monsieur le Prof, mais ils ont pas tagué Monsieur le Prof, tu vois. D'accord. Quand même, il y a eu 300 partages, des milliers de likes, tu vois. Donc business de la réappropriation, mais pas du sourcing.
D'accord.
Donc en France, plagier, c'est la pire chose qu'on puisse faire en tant que producteur de contenu. Parce que nous existons par le contenu que nous produisons. C'est le mal. Mais comme disait Bill Murray dans Ghostbusters, le bien, le mal, tous ces trucs-là, c'est un peu flou pour moi. Tu veux dire quoi par mal exactement?
C'est ce que dit Fibre Tigre aussi des fois.
Oui.
Quand il doit retourner sa veste.
Donc, la première idée, c'est que, est-ce que ce qui est important, c'est le plagiat ou c'est notre réaction au plagiat? C'est-à-dire que, est-ce que en disant non mais les plagieurs, vous poussez un peu le bouchon loin, enfin vous auriez pas dû reprendre mon image, est-ce que finalement on rentre pas dans leur jeu et on va dire, c'est pas nous qui créons la situation qui met en valeur le plagiat. Donc, ne trouvez-vous pas étrange que, naturellement, par notre éducation, on méprise le plagiat, notre respect donc de la propriété intellectuelle, mais à côté, quand on veut regarder le dernier épisode de Game of Thrones, la propriété intellectuelle, tout d'un coup, on l'oublie. Alors, c'est même pas la peine de vous indigner. Je vois que réponse, silence absolu. C'est même pas la peine de vous indigner. Les plagieurs, ils ont gagné. Les sites clickbait, donc APA à clic qui attire les clics, au rang duquel on compte notre fierté nationale des motivateurs, mais il y a plein de sites périphériques et de comptes Twitter sur Facebook qui reprennent, comme l'exemple dans l'exemple de Monsieur le Prof, des tweets, des citations. Ils en ont fait leur fond de commerce. Une image buzz bien sur les réseaux sociaux, ils la prennent, ils la repostent sans se poser de questions. Ça marche très bien. Et quand on les accuse, et d'ailleurs on les accuse régulièrement, et parfois ça crée des mini polémiques, ils réagissent pas, ils en ont rien à foutre, rien ne se passe. Donc ils gagnent. Mais pourquoi pas? Je veux dire, les poids lourds récents de la télé française, les dernières séries créées par TF1, Le Petit Journal de Canal, c'est bien du plagiat non avoué de l'Amérique, tout simplement. Je veux dire, si ça marche sur la télé, pourquoi pas? Pourquoi se faire chier pour le web? Certains gros twittos professionnels du retweet utilisent le plagiat pour quantifier leur réussite de tweet. C'est-à-dire, ils font un tweet, il marche bien, ils disent « Ah, mon tweet n'a été repris que 15 fois. » Voilà.
D'accord.
Donc, ça veut dire que c'est quand même, c'est aussi une forme d'outil pour évaluer la performance d'un tweet.
La copie est une belle forme de flatterie, disait plein de gens.
Voilà, c'est ça.
Je plagie quelqu'un d'autre, là.
Alors, moi, je vais digresser légèrement.
Mais alors, légèrement, hein.
Voilà. Parce que moi, par culture, je suis pas encore chinois. Donc, le plagiat.
C'était le point raciste.
Bah non, on a dit bonjour les Américains tout à l'heure, on va dire bonjour les Chinois.
Non, mais les Français. Disons que
culturellement, tu n'es pas encore chinois. Continue.
Voilà. Donc, le plagiat, il a une connotation légèrement négative dans ma tête.
Et puis, légèrement chinoise aussi, du coup, dans ta tête.
Non, mais.
Si.
Si j'ai le choix entre le plagiat ou les men in black, avocats, protecteurs de ce qu'on appelle le copyright madness, c'est-à-dire, vous pouvez pas toucher à une œuvre pendant 70 ans, et si possible 90 ans, et pourquoi pas plus longtemps, si on arrive à changer les lois par lobbyisme, etc. Je préfère être du côté de ceux qui peuvent, enfin, de la liberté de la copie, en quelque sorte.
D'accord.
Voilà. Et la question que je voulais poser par cette chronique, qui est un petit peu vaste et qui est pas comme aime l'âme, c'est-à-dire, on parle un peu de nous, mais j'aimerais vous faire réfléchir sur ce sujet-là, c'est est-ce qu'on peut imaginer une culture qui est vivante, mais qui existe sans propriété intellectuelle?
C'est un sujet brûlant en ce moment.
Voilà. Peut-on imaginer, et je vais reformuler ça avec des mots à la Sylvain, peut-on imaginer une dynamique vertueuse du plagiat? Alors, j'aimerais en parler parce que ça existe partiellement dans une grande industrie de loisirs qui est le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, on peut plagier un jeu. C'est un nom, ça s'appelle un clone. Et d'ailleurs, c'est un nom super courant. C'est-à-dire, on peut dire, bah tiens, je vais cloner ce jeu. Il y a aucun problème, c'est complètement admis. Il y a pas d'arrière-pensée derrière. Même d'ailleurs, si vous allez voir des investisseurs et vous dites, on va faire un clone de ce jeu, ils vont être plutôt rassurés que effrayés. Tandis que dans d'autres secteurs d'activité, ils vont plutôt dire, non, vous avez un problème de propriété intellectuelle, monsieur. Pour vous rappeler à l'époque de Flappy Bird, 2013, non seulement il y a des clones de Flappy Bird, mais il y avait des clones de logiciels pour créer des clones de Flappy Bird. Voilà. Donc c'est la voilà.
Ça va loin dans la méta. Voilà. Méta-plagiat.
L'inception. Et c'est vertueux parce que quand on peut tous plagier Super Mario Bros, on a 1 million de Super Mario Bros, mais à un moment, on a un Super Meat Boy.
Ouais.
Donc ça veut dire que c'est il y a pas rien qui sort de ce plagiat.
Est-ce que tu es en train de nous refaire le marché capitaliste total, Fibre?
Alors moi je vois ça plutôt d'un côté communiste, ouais, tu sais, le serpent se mord la queue, mais ouais. Ce que je veux dire c'est que alors est-ce que on ne peut pas imaginer que on sorte d'une certaine dimension qui est la dimension d'artiste entre guillemets, mm-hmm. et qu'on devienne des chercheurs culturels. C'est-à-dire que
c'est un mot bien poli, dis-moi, pour dire plagieur.
Non, parce que pour plagier une citation de Isaac Newton, les chercheurs scientifiques, ils peuvent se hisser sur les épaules de leurs prédécesseurs pour voir plus loin. Et nous, dans certains domaines très protégés intellectuellement, on peut pas reprendre là récemment, par exemple, c'est Buck Rogers, je crois, il y a une polémique sur la copyright maintenance sur ce point-là. On peut pas reprendre des univers qui ont été créés. Et sauf par le biais de la fanfiction qu'on a traité, on peut pas reprendre officiellement des univers qui ont été créés parce qu'ils sont protégés de façon bizarroïde par des gens. Et si on avait une liberté totale, peut-être qu'effectivement, les utilisateurs pourraient en profiter. Voilà.
Tu reviens un peu à ton côté droite dure du futur quand même là.
Bon, bah écoutez, il faut bien qu'il y en ait un.
Alors un monde, ça fait penser un peu aux dirigeants de Google qui disaient si on inventait une île où on pourrait faire de la recherche mais sans aucune limite éthique ou légale.
Les nazis aussi ont fait ça, je crois.
Comme ça, bah on a tout vu là. C'est bon, les nazis, les Chinois, Google. Un monde de plagiat dans lequel on vit. Qu'est-ce que vous en pensez vous avant de parler d'un monde de plagiat total dans lequel Fibre
vit. Je voudrais juste Fibre, dire une mini anecdote. Hier j'étais avec des tweetos lyonnais. Voilà, Iladji, Caribahu, Lori, donc des habitués à des tweets à 2500 retweets, etc. Et je leur ai posé la question y a-t-il quelqu'un parmi nous qui n'a jamais plagié?
Ouais.
Et silence total.
C'est vrai.
Ouais. Les gens disent, ils ont tous avoué que indirectement, directement, ils avaient plagié.
Des tweets anglais, des trucs populaires.
Oui, voilà.
Eh ben, je trouve ça décevant.
Daz.
En fait, j'ai un problème de terminologie, j'arrive pas à faire la différence dans la chronique de Fibre entre le plagiat et le vol.
Ouais.
Parce que,
le plagiat est une forme de vol de...
Non, parce que ce qu'il évoquait, par exemple, avec les 9 gags et des motivateurs, etc., c'est reprendre quelque chose à l'identique et ne pas citer la source. Donc ça, c'est du vol. C'est pas du plagiat. Le plagiat, ça serait réadapter un truc qui existe déjà en changeant 2 formules à l'intérieur pour dire que ça vient de moi.
Est-ce que c'est pas un degré moindre de vol, d'une certaine manière?
Bah, il y a quand même un petit travail de réadaptation,
travail.
Tu vois.
Il y a une partie de copie, puis une partie d'appropriation.
Oui, mais je les vois pas au même niveau. D'accord, tu vois. Tu vois un Johnny Hallyday, pour moi, c'est un voleur. Parce qu'il a fait que réadapter du rock américain à l'époque.
Mais là, tu rentres totalement dans ce que disait Fibre. En fait, c'est que, effectivement, il y a eu des émissions de télé françaises qui ont réadapté des concepts américains, mais il y a eu un travail aussi dessus.
Non, mais voilà, quand il y a une réadaptation.
Ouais, Johnny, il a adapté.
Je sais même plus où j'en suis moi-même, merde.
Bon, pendant que tu retrouves tes esprits, Sylvain.
Moi, j'ai 3 choses à dire sur la chronique de Fibre.
Oh là, t'as parlé comme Fibre, du coup, t'as un peu plagié Fibre.
La première chose, c'est que, de toute façon, je sais pas si vous avez regardé la série de documentaires qui s'appelle Everything is a Remix, est une série de documentaires sur la créativité. Le mec explique que, quand on crée quelque chose, on le fait de 3 manières. Il y a 3 façons de le faire. Soit en copiant.
Donc là, t'as 3 points dans ton premier point des 3 points.
Ouais, donc ça, c'est des lettres maintenant.
Petit A.
Petite 1.A. Donc,
les 3 points. Il va poster ses trucs sur LinkedIn, il va en plein de likes.
De créativité. C'est la copie, la transformation et la combinaison. C'est-à-dire, mettre 2 choses ensemble, transformer une chose ou copier une de ces choses. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le monde que tu décris, ce monde idéal, hein, où le plagiat est autorisé, entre guillemets, c'est exactement la même chose que, le monde de l'open source. Et la licence Creative Commons.
C'est vrai. C'est un monde où tout le monde peut reprendre et incrémenter et modifier et voire cloner à l'identique.
Et se hisser sur l'épaule des prédécesseurs, etc. C'est tout le principe. Et la dernière chose, c'est que si le concept de propriété intellectuelle existe, c'est parce que il y a aussi toute une activité, pas trop en France, mais notamment aux US encore, qui est de foutre un procès au cul dès que quelqu'un pompe une idée, même s'il l'a pas fait exprès. En fait, il y a tout un business de
des patent trolls.
Des patent trolls. Il y a tout un business de mecs qui s'enrichissent juste en faisant des procès en répétition sur des choses qui ressemblent à peu près à un truc que t'as déjà déposé. Quoi.
Donc ça c'est pour toi, c'est un abus inverse.
Ouais, voilà.
Mais dis ça, est-ce que toi qui crée du contenu et qui en consomme, est-ce que tu en as déjà plagié ou est-ce que tu as déjà été plagié et comment tu le prends?
Nous, on n'a pas le droit normalement. C'est normal dans la charte de notre métier, on n'a pas le droit de plagier des choses. Et quand on cite des tweets, bah, on met les vrais tweets, enfin, on les embête, parce que Twitter a quand même fait en sorte de pouvoir embêter les choses et Facebook aussi.
Mais par exemple, il y a des tournures de readers qui sont copiées sur d'autres tournures d'autres sites, non? Parfois.
Les Arocs aiment beaucoup titrer comme nous.
Genre, regardez ceci, faites cela.
Oui, mais ça, c'est des formats de titres. C'est pas le plagiat, ça serait de faire le même titre.
D'accord.
Exactement le même titre. Non, le problème, c'est que, après, pour moi, le plagiat, c'est un peu dans l'essence d'Internet, quoi. Les mêmes, c'est du plagiat. Enfin, tu reprends et tu déformes et tu reprends la photo d'origine. Donc, ça pose pas de problème. Et en fait, tous les sites d'info connaissent ce truc où, en fait, les papiers sont copiés-collés sur des blogs partout sur Internet et, en fait, ils les attaquent pas, les gens. Enfin, parce qu'en fait, il y en a tellement et c'est là, quoi. Ça fait partie d'Internet. Donc, c'est pas, nous, on n'a pas le droit de le faire parce que si on commençait à plagier les infos des autres. Il y a de la reprise adaptée. On ne met pas les mêmes phrases, mais on dit genre le canard enchaîné a sorti cette information. Faisons un papier pour en parler. Non, ça gangrène un peu les médias parce que du coup tu reprends l'info sans l'avoir vraiment, mais en même temps tu peux pas ne pas en parler parce que si jamais tes lecteurs ne vont pas sur le média source, tu peux pas savoir.
D'accord.
Mais il y a mille, on peut faire une typologie de toutes les variations de plagiat, quoi.
Est-ce que comme disait Fibre, la notion de plagiat qui était très honteuse, qui était vraiment vilain à une époque, avec justement Internet et la multiplication des contenus, des partages, des reprises, etc., c'est une notion qui va rentrer dans nos mœurs, et puis en fait, c'est pas
vraiment
si grave.
Ça s'est vraiment lissé, parce qu'au début, justement, les médias, ils étaient hyper choqués quand des blogs reprenaient leurs papiers en intégralité, et aujourd'hui, ils s'en foutent, quoi. Ouais. Ils savent que ça fait partie du game. Et
ça fait partie de la culture dans laquelle on vit
aujourd'hui. Ils ont plus la force pour aller attaquer tout le monde, quoi.
D'accord. Et vous, alors, ça, c'est Mélissa d'un point de vue professionnel. Vous, d'un point de vue personnel, est-ce que vous avez du coup déjà plagié? Et est-ce que du coup vous avez dit c'est pas si choquant parce que finalement c'est ça, j'ai vu une photo sur Instagram qui m'a plu, puis en fait j'ai eu l'occasion de la refaire, j'ai refait sur mon compte, c'était cool.
Nous on est un peu genre c'est moche quand tu cites pas la source, hein, je pense ici.
Ouais, on est en mode une étiquette.
C'est vraiment sale, quoi.
Non mais par exemple vous avez vu chez quelqu'un qui je sais pas faisait un type de photo genre des plafonds au hasard. Non mais quelqu'un qui faisait une photo qui vous a plu et vous avez eu l'occasion de la refaire avec le même rendu, mais c'était votre situation à vous, mais en fait l'idée et le système a été
c'est du mimétisme, c'est pas du plagiat,
c'est de l'inspiration, c'est du mimétisme.
Il y a un truc,
c'est quoi le plagiat en fait, c'est ça le problème, il y a un curseur,
le plagiat il y a un côté légal, j'ai l'impression quand même.
Il y a une situation qui m'arrive très souvent, j'avoue, confession encore à nouveau. Par exemple, Daz fait une bonne punchline,
ouais.
Je la note secrètement, je la tweet. Voilà, et j'espère qu'il la lira jamais.
Mais oui, voilà, il y a ce truc aussi que je me dis, moi je plagie pas.
Sylvain.
Je plagie pas parce que j'aurais peur que les gens s'en rendent compte. Et c'est la honte. Ah. C'est la honte.
Donc, vous êtes encore dans cette époque où pour vous le plagiat c'est quelque chose qui est mal.
Ouais. Pour ça oui, mais tu vois, par exemple sur un truc, enfin.
Est-ce que il y a déjà des choses que tu as reprises?
Bah strictement professionnel, je me suis rendu compte que beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'on plagie finalement, tu vois, quand, enfin moi dans mon milieu. Quand il faut écrire une spec ou faire des choses comme ça et qu'on dit reprends la spec qu'un tel a écrit l'année dernière et puis tu repars de ce truc-là, et je dis non, moi je repars de zéro en fait. J'aime pas utiliser le truc de quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose qui est complètement entré dans les mœurs en entreprise, en tout cas dans certains domaines où oui c'est courant de reprendre la présentation d'un mec et puis de changer la date, changer le titre et puis hop on réarrange 2-3 slides, mais globalement on n'a pas changé grand-chose. La même chose pour tout ce qui est documentation. Enfin voilà, moi je vois tous les jours et c'est un vrai effort que d'essayer de pas tomber dedans en fait.
Du coup quand t'as fait ton blog, tu l'as codé from scratch.
De quoi?
Ou t'as utilisé WordPress et un thème?
Non mais il y a une différence entre un template, c'est-à-dire qu'il te donne une structure, et puis le contenu.
Tu vois?
Ah non mais attends, parce que
moi je suis pas des documents template, il y a pas de problème avec ça.
Une structure c'est une forme de travail aussi,
ouais,
que tu peux utiliser.
Non bien sûr, non mais après enfin c'est
une plagie,
la structure c'est pas du plagiat.
On peut plagier du CSS si tout à fait.
Oui, non mais utiliser un template pour moi c'est pas du plagiat, c'est si dans le template t'as des articles qui sont déjà écrits et que tu les retouches pas et que tu fais comme si c'est toi qui les avais.
Je suis d'accord avec Sylvain, c'est que le contenu n'est qu'une partie du projet global.
Bah, c'est pour ça que
tu reprends une chanson et que tu as repris exactement le même beat de la chanson mais que tu as changé les paroles, est-ce que c'est 60% différent? Est-ce que tu dis non, j'ai le beat, je l'ai complètement copié, la mélodie aussi, mais j'ai changé les paroles.
Bah c'est 100% des problèmes qui se passent en ce moment, ouais.
Oui, mais du coup, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses avoir plagié une partie de quelque chose? Est-ce que tu dis non,
c'est moi je viens d'une culture où le sample est prépondérant, tu vois. Après, il y a deux types de samples. T'as le sample qui...
T'as le bon sample.
Et le mauvais sample. Alors, laisse-moi t'expliquer. Non, mais voilà, tu as le sample qui est la boucle, en fait, qui va tourner ad vitam aeternam, comme ça, et puis le mec va poser un texte dessus. Et puis, t'as le sample que moi, je préfère, qui est le sample un peu plus créatif, c'est-à-dire que tu
le bon sample et t'as le mauvais sample.
Non, t'as le bon sampleur et le mauvais sampleur. Ah, en fait. T'as la boucle que moi, j'aime pas trop, et tu as le type qui va découper un truc existant, mais qui va le rejouer d'une façon que, en fait, si on ne donne pas les clés pour comprendre, t'arriveras pas à retrouver l'original.
Donc, on revient un peu dans l'idée du livre de Sylvain qui est Everything is a Remix, quoi, d'une certaine manière.
Ah bah, oui, dans le hip-hop.
D'ailleurs, le documentaire commence là-dessus, en fait, sur, enfin, même avant le hip-hop, sur des artistes sur le rock, en fait.
Fibre.
J'ai un raisonnement un peu pervers que je cautionne pas, mais je le dis pour alimenter le débat.
Attends, tu as un raisonnement un peu pervers que tu ne cautionnes pas, mais que tu dis quand même pour le débat. C'est vraiment voilà. Beau, c'est de voilà. Dévouer.
Fibre. Non, mais, si tu as une punchline intéressante en anglais.
Oui.
Et que tu la traduis en français et que oui. Tu la postes comme ça sans la sourcer. C'est un peu un truc de fils de pute. Mais
lors de plagiat.
Mais tout d'un coup, t'as beaucoup de francophones qui peuvent la lire et qui peuvent en profiter.
J'allais poser la question.
L'accès à l'information, c'est important.
C'est aussi
vrai, hein.
c'est aussi un point intéressant.
Un gros raisonnement.
Non, c'est un point intéressant parce que sur Twitter, il arrive souvent que des gens partagent des choses qui sont extrêmement populaires et qu'en fait, si on creuse un peu l'enquête, ce sont souvent des traductions ou des reprises d'autres choses. Ouais. Est-ce qu'à chaque fois vous êtes en mode justice, genre vous êtes choqué, ou est-ce que vous dites bah en fait je l'ai partagé, ça m'a fait rigoler, puis c'était fait, c'était traduit, c'est bien, même si c'est un plagiat.
Tu partages ou tu écris, attention, c'est différent.
Non, non, est-ce que vous partagez, par exemple, est-ce que vous cautionnez ça? Par exemple, vous voyez quelqu'un qui a tweeté un truc genre le saviez-vous, une chose qui est très populaire, mais vous vous rendez compte que c'était repris quelqu'un d'autre. Est-ce que vous dites je vais chercher la source originale pour en fait retweeter la source originale et avoir une sorte de étiquette du plagiat, ou est-ce que vous dites, j'ai vu là dans ma timeline,
Moi j'ai un problème avec ça, c'est que avec mon compte Twitter et mes 3 followers et demi, quand j'ai vraiment un bon mot, je vais le googler pour être sûr que personne l'a sorti avant, tu vois.
Ah, donc fact-checking.
Mais parce que,
quand j'étais
à la fac et que, on parlait des exposés.
Ouais.
Il y avait deux types de personnes. Il y a ceux qui...
Bons exposés.
Mais non, c'est un truc, sincèrement, ça m'a un peu choqué toute ma vie.
Ouais.
De voir que des gens qui faisaient finalement une copie mot à mot d'un bouquin pouvaient s'en sortir. Et mieux, en tout cas, que des gens qui essayaient de s'approprier le sujet et puis de leur cracher avec leurs propres termes, ouais. Tu vois. Et c'est là, c'est en voyant justement ce truc-là, je me suis dit, mais putain, en fait, pour réussir, faut juste pomper un truc, le recracher, mais sans même y réfléchir.
D'accord. Et l'âge,
c'est quelque chose que moi, je m'interdis de faire.
Mais donc,
en fait.
L'âge d'Internet, d'un point de vue contenu, l'âge de la technologie avec les samples numériques, etc., qui...
Et c'est différent. C'est différent parce que moi, quand tu fais un truc comme ça, c'est-à-dire reprendre le mot de quelqu'un et le repousser, donc faire un RT, bêtement, tu enlèves pas la source du truc. Tu vois. Moi, si tu dis qui est à l'origine du machin que t'es en train d'utiliser, il y a
mais si tu le dis pas,
pourquoi moi ça me choque.
Le concept, c'est tu fais ta punchline de ouf et t'as un anglais qui l'a traduit du français vers l'anglais et le mec il fait 1 million de RT. Je veux dire, tu te fais baiser.
Bah, pour moi, il devrait citer la source, en fait.
Oui.
Donc vous êtes tous en mode d'une étiquette respect ouais. De la source. Ok, très bien. Donc un peu à l'ancienne. Non mais
c'est pas à l'ancienne. Moi, j'ai l'impression.
Bah si, c'est l'ancienne parce que ça se perd d'une certaine manière.
On est des Jedi, putain, c'est flippant.
Non, là. Justement, la licence Creative Commons, c'est avec attribution, tu vois. Enfin, il y en a plusieurs qui existent, mais généralement, c'est avec attribution.
Alors, et donc, Sylvain, pour revenir à ça, qui rejoint un peu la dernière partie de Fibre. On imagine une société 100% ouverte sur la copie, l'incrémentation, etc., qui est, en fait, effectivement, comme tu dis, créée par certaines licences, de Creative Commons et des licences open source, mais généralisée pour tout. Là, tu sors une punchline, et Fibre, en fait, il dit, ouais, les mieux sont avec une virgule, paf, une virgule, ça passe mieux. Et
il l'a travaillé, donc c'est
il l'a retravaillé, mais il cite Daz, qui est,
d'accord,
à la
mais
source du truc.
D'accord.
Tu mets Creative Commons dans ta bio Twitter ou pas?
je l'ai pas mis, mais je pourrais le mettre. Et non, mais j'aime beaucoup, moi, ça.
Et donc, en mode ouverture, qu'est-ce que vous pensez de la société pensée par Fibre? Encore ce petit côté hashtag droite dure du futur.
Mais c'est bizarre parce que
Fibre est sans aucun droit. Non, mais voilà.
Mais Fibre est créateur de contenu.
Oui, mais Fibre est créateur de contenu, mais il s'inspire pour du contenu, son contenu inspire d'autres aujourd'hui. C'est vrai, on est d'accord pour Adair.
Tout à fait, et je vais même...
Tu t'es inspiré.
On n'a pas trop de temps, je vais juste très rapidement dire quelque chose. C'est que le mon jeu Out There, enfin le jeu que j'ai co-créé...
La copie de FTL, ouais.
Non, justement, le créatif directeur de BioWare, il s'appelle Mike Ledlow, il est venu me voir, il a dit, ça ressemble un peu à Mass Effect 2. Hein.
Ah ouais.
Et il m'a dit, mais c'est du bon travail. Je suis très content, c'est un bon jeu. Et donc, il a dit,
merci du plagiat, mais c'est du plagiat de qualité. Non,
mais attends, fin de l'histoire, je termine. Daedalic, société allemande, vient nous voir et dit, on aimerait bien cloner votre jeu. Est-ce que vous pouvez nous aider? C'est-à-dire que les mecs, non seulement ils clonent le jeu, mais en plus ils m'ont posé des questions en disant, vous avez fait quoi pour les étoiles et tout, etc. Et on a répondu, tu vois. C'est-à-dire que, pour pas se faire baiser par ce clone qui va arriver de l'Allemagne, nous on est en train de sortir du contenu gratuit, tu vois. pour que les mecs soient en retard de notre contenu gratuit. Donc les gens qui gagnent, c'est les joueurs.
Oui, mais donc tu reviens à cette histoire où le consommateur gagne à la fin et le capitalisme permet de créer une dynamique, etc., etc.
Vive le capitalisme.
Vive le capitalisme. On s'arrêtera dessus. Merci les Américains, merci les Chinois, merci les nazis, merci. Allez, dernière FAQ.
FAQ.
On a été loin encore, on a été loin. Bon, du coup, une petite question toute légère, mais qui fera sourire peut-être Ghislain et Angie, qui eux travaillent dans une radio très très classique. Ils disent, est-ce que sur les internets on fait du vouvoiement ou du tutoiement? Parce qu'on est tous proches ou pas sur les internets, et notamment sur les émissions, je trouve. Alors attendez, je dis qui est l'auteur de la question, parce qu'on va pas faire du plagiat, hein, je vais citer l'auteur. TN4430 sur Twitter. On en parlait parce que dans notre émission, on se tutoie à tous, on est familier, et à la télé, à la radio, la règle, c'est de se vouvoyer, même quand on est pote à la compote ou ennemi éternel. Nous, on se tutoie. Est-ce que vous embêterez si on devait se vouvoyer, Daz? Qu'en pensez-vous, Daz?
Eh bien, écoutez, l'âme, puisque vous me posez la question, et pour avoir été introduit, n'est-ce pas, à ce jeu de Uno pute que vous avez créé avec la règle qui impose le vouvoiement, oui. Je n'aurais aucun problème à tous vous vouvoyer autour de cette table.
Tu pourras dire, je vous chie à la gueule, Sylvain Palais.
Tout à fait.
Ouais, Sylvain, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est vraiment old school, le vouvoiement, et ça devrait disparaître, ou est-ce qu'en fait, ça crée une forme de, je sais pas, une forme de qualité, et que le vouvoiement qui existe à la radio et à la télé traditionnelle n'est pas là pour rien?
En fait, Fim, on a parlé la dernière fois, le tutoiement sur Internet, il vient du fait que Internet, c'est américain. Un peu quand même.
D'accord.
Et qu'il n'y a pas de formule de politesse en anglais.
Ces Américains,
ouais, sauf qu'en fait, les Américains, le you qu'ils utilisent ressemblerait plus à un vouvoiement de base.
J'aime ce cours d'anglais.
D'accord.
On est parlé avec des Américains, justement.
Ok. Très bien.
Donc, avec des chercheurs américains ou pas?
Chercheurs américains.
Avec des chercheurs américains. T'en as fait une étude américaine
avec des Américains et des Irlandais. On se posait la question. On dit non, mais le you aux États-Unis, ça serait plus tout le monde se vouvoie.
Mais il dit ça, on se vouvoie ou on se tutoie?
T'es vénère, hein.
Mais on se tutoie parce que, franchement, sur France Inter, sur Radio France, pardon, sur des radios, ça rend parfois les trucs très formel et
je crois ça que c'est empêche le formalisme, en fait.
Ouais, mais on n'en est plus là, non?
D'accord, ok.
Non, mais moi je dirais oui pour certaines émissions, non pour d'autres.
Oh non, c'est un truc de normal. Genre, je pense avoir que un vrai avis là.
Par exemple, touche pas à mon poste.
Le move, ils ont dû galérer tellement longtemps, enfin tu vois.
Bah ils galèrent encore, tu sais. Je pense que qui se tutoie, qui se voit, qui se parle à la troisième personne.
Le move, on salue.
Bah non, on aime bien le move, c'est juste qu'il galère, voilà, mais ça aussi.
Le move n'existe plus.
Move, c'est move. Fibre.
Réponse en deux temps. Non, rapidement, déjà le vouvoiement, ce qui est chiant sur Internet, c'est que ça prend deux caractères de plus que le tutoiement. Non, mais c'est vrai, sur Twitter.
Et quand t'as un clavier Beppo, c'est super important.
Ouais, non, mais quand t'as 140 caractères, bah, ça en fait deux, hein.
Hors de Twitter, tu sais qu'il y a une vie hors de Twitter.
Alors, du coup, moi, je veux dire, je fantasme d'un 404 où on se vouvoie. Et non. Au moment où on s'énerve, on se tutoie, tu vois. Genre, je suis d'accord avec vous, mais vous êtes d'enculé, le passage au-dessus, qui symbolise le fait qu'on s'énerve vraiment, tu vois, qu'on
mais
se lâche.
On pourra tenter la prochaine émission.
Il y a de saines colères.
Ou alors, on pourra faire ça, et quand on s'énerve vraiment, on parle à la troisième personne, tu vois. C'était intéressant,
Il n'est pas d'accord.
Les fibres-tigres pensent que tu te chierais bien à la gueule. Bon allez, on essaiera ça à la troisième personne. En tout cas, c'était la fin de cette FAQ. On espère que vous ou tu es satisfait par cette réponse.
Studio 404, l'émission de société numérique.
C'est la fin de ce numéro d'octobre qui sera publié presque en novembre, mais on commence à avoir la mauvaise habitude. En tout cas, c'était un plaisir d'être encore tous ensemble au Tank, hein, seul un dimanche soir au Tank, comme ça on est très très bien. Je vous remercie, chers chroniqueurs, Daz, Sylvain, Mélissa, Fibre, d'avoir été là et d'avoir encore partagé vos points de vue, votre mauvaise foi, ta mauvaise foi, je sais plus comment on dit. Merci beaucoup à Ghislain d'avoir réalisé cette émission, comme toujours. DNG, notre voix, d'avoir été là, d'avoir fait les voix en live. On gardera les ratés, hein, Ghislain, on est d'accord.
Ah, ouais.
Et notre spectatrice qui nous a filmé sur Periscope en direct. On remercie évidemment encore un grand merci au Tank, qui est cet espace de coworking où il n'y a jamais personne quand on vient, donc c'est cool.
Parce qu'on vient à 22h aussi.
Qui remplit la journée, mais en tout cas, il sera rempli la prochaine fois parce que promis, juré, craché, la prochaine émission sera en public avec vous. On vous réserve plein de surprises, peut-être de la nourriture, peut-être des choses un peu folles, mais en tout cas, pour l'émission de novembre, qui sera peut-être pour décembre. Enfin bon, bref, on fera tout ça bien au Tank tous ensemble. En tout cas, en attendant, bonne écoute. Allez, ciao.
Ciao.
Bye bye.
Salut.
Au revoir.